Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, c'est un garage sur le thème de l'approbation et de la sanction avec Natacha.
Salut.
Adrien.
Je suis d'accord.
Emmanuel.
Salut.
Et Maxime. Ça va?
Ouais, c'est juste qu'on ne m'avait pas dit que c'était là-dessus.
Comment ça, on t'avait pas dit?
Moi, je pensais que c'était sur le jeu de rôle solo, la masturbation, non?
Non,
non, c'est l'approbation et la sanction.
Ah merde, bon bah voilà, je vais rester quand même.
Donc voilà, donc l'approbation et la sanction, un petit garage. Alors déjà, et peut-être commencer par un petit tour de table ici, pour les jeux de rôle que vous avez créés, comment les réflexions autour de ces notions d'approbation et de sanction ont joué un rôle, si elles ont joué un rôle, quel rôle ont-elles joué, etc., etc. On va faire un petit tour d'auteur, on va dire, déjà.
Dans les jeux que l'on a créés, donc.
Dans les jeux que vous avez créés pour le moment.
En gros, en fait, avant de dire comment ça prend lieu, j'aimerais bien qu'on définisse un petit peu ce que c'est, parce que je suis pas sûr qu'on en ait tous la même définition.
Très bien, très bonne idée, Adrien.
Pour moi, les mécanismes d'approbation, en fait, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on voit, par exemple, dans Prosopopée, qui est la règle de quand quelqu'un dit quelque chose qui vous plaît ou qui est beau, récompensez-le d'un dé. Pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Pour moi, l'approbation, c'est tout ce qui t'encourage à utiliser le système du jeu. Donc ça peut être des récompenses directes avec « tiens, un dé parce que tu as dit quelque chose de beau », mais ça peut être aussi quelque chose comme « là, j'aimerais bien convaincre ce mec » et « ah, sur ma fiche, j'ai un élément type, je sais pas, la compétence conviction et je peux convaincre le mec ». Et donc, le fait d'utiliser ma compétence pour résoudre un conflit, j'utilise le système du jeu. En gros, je reçois l'approbation du système de jeu. Pour moi, l'approbation, c'est aussi l'approbation...
Tu confonds avec la récompense.
Je confonds
avec la récompense. Enfin, tu considères que c'est la même chose que la récompense.
La récompense est une forme d'approbation.
Absolument. Ouais.
Et donc, en fait, pour moi, l'approbation, c'est l'ensemble des éléments de jeu qu'en tant qu'auteur, on veut voir dans une partie. Et donc, l'ensemble des éléments de jeu qu'on veut voir dans une partie, c'est tout ce que les règles doivent encourager. Et donc, en fait, pour moi, l'approbation, c'est l'ensemble des règles, à peu de choses près.
Alors, j'étais d'accord avec toi jusqu'au moment où tu as parlé quand même de... Tu penses qu'un système de jeu, en gros, peut approbationner, je ne sais pas comment dire...
Oui. Approuver.
Approuver, voilà, merci, merci Emmanuel. Peut approuver, j'ai vu aussi Natacha se précipiter sur le micro, j'ai l'impression d'être...
Non mais remarque, approbationner, c'est bien, j'aime
approbationner,
bien.
Approbationner, bon... Non mais approuver, tu penses qu'un système peut approuver au sens... Alors oui, j'ai envie de dire oui. Pourquoi ? Parce que souvent, le garant du système, c'est un joueur autour de la table.
Ouais.
Et donc du coup, soit comment on appelle ça, un animateur, soit un meneur de jeu, en règle générale, c'est vrai que c'est souvent un joueur qui approuve et qui du coup donne son approbation. Mais dans la mesure où c'est un système qui le fait, moi j'aurais tendance à parler quand même de récompense et à distinguer les deux. Pour moi, l'approbation... C'est...
D'accord, c'est vraiment de la part des pairs autour.
Voilà, c'est vraiment... L'approbation provient d'un humain. Tu vois ce que je veux dire ? Elle provient...
Ouais, mais l'auteur de jeu est un humain derrière le jeu.
Ouais, mais c'est...
Oui, mais autour de la table, j'entends.
Du bouquin, quoi.
Un humain autour de la table, j'entends.
D'accord.
Est-ce Emmanuel. Qu'on peut envisager, pour regrouper vos deux versions, de dire que quand il y a approbation, c'est qu'il y a un aspect subjectif ? Alors qu'au niveau de la récompense, si c'est utilisé, il y aura systématiquement un apport chiffré, une réussite plus facile, etc. Alors que sur de l'approbation, alors ça peut être sur de la qualité et que ça ne se traduit pas forcément par quelque chose de concret.
Je peux te donner un exemple flou justement qui est entre les deux. Dans l'agence, le fait de pouvoir utiliser les éléments de notre CV, donc nos expériences professionnelles et nos diplômes de façon extrêmement large et que l'organisateur de la partie est là pour pousser les gens à ne pas hésiter à les utiliser, c'est mettre une part de subjectivité parce que dire « ouais, j'ai une expérience professionnelle en Thaïlande et donc si je suis en fuite dans la jungle thaïlandaise, j'ai le droit à des bonus parce que tu vois, je suis déjà allé en Thaïlande ». Ce raccourci-là, il est voulu par le jeu parce que on n'est pas là en fait pour vérifier « ah oui, t'as escalade, non, t'as pas escalade, donc tu peux pas escalader ». C'est pas l'objectif du jeu et donc en soi, c'est subjectif parce qu'il faut que les joueurs autour de la table trouvent un minimum de cohérence, un minimum, mais le minimum est là. Et en même temps, c'est voulu par le système. Donc,
Alors, Un petit point, on a appelé ce podcast approbation et sanction. C'est intéressant de voir aussi, est-ce que tu dirais, Adrien, qu'un système te sanctionne pour telle ou telle chose ? Moi, il me semble que non. C'est un joueur qui te sanctionne. Par contre, on dira qu'un système n'encourage pas telle ou telle chose, ne permet pas telle ou telle chose. Mais on dira pas qu'un système sanctionne.
Il faut que j'y réfléchisse.
Ouais, mais c'est très intéressant. Enfin, ton introduction est super intéressante. Parce que tu vois, dans ma tête, j'avais pas pensé à ces distinctions-là. Et c'est très, 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 très bien, Adrien.
Quand
pas...
Tu dis hein, qu'un joueur... sanctionne, tu penses à quoi ? Parce que j'ai pas
d'exemple. Alors, par exemple, si l'immersion négative, typiquement. Hein,
bah oui, mais moi je pense que c'est pas une sanction.
Alors, dans le sens Renaissance, si. Dans le sens Renaissance, c'en était une. Enfin, c'était écrit comme une sanction. Alors, je t'en donne un autre exemple. Un joueur qui rate un jet de dés et le maître de jeu ne lui donne pas l'indice. Ou alors des joueurs qui ratent leur coopération. Non, je vous donne un exemple plus clair. Parce que je vois Adrien qui sourit. C'est l'air de dire non, c'est contestable. Des joueurs qui font une scène dans laquelle ils hésitent entre deux stratégies. Il y en a une que le MJ sait bonne, une qui est mauvaise. Il me semble que quand les joueurs se décident pour la mauvaise stratégie, imaginons, lorsqu'ils l'appliquent, le MJ les sanctionne. Vous voyez, comme... par exemple, j'ai eu ça dans Chin sur des jets d'étiquettes ou des trucs comme ça, où tu vois, on s'interroge sur l'étiquette à avoir face à quelqu'un. Le MJ nous a dit ce qu'il fallait faire. En tant que joueur, on n'était pas attentif. On fait pas les bons gestes, on dit pas les bonnes choses. On est sanctionné parce que la scène. Alors c'est non, t'es pas d'accord, Adrien, avec ça ?
Bah, c'est plus vraiment des mécanismes de sanction. Enfin, j'ai du mal à voir ça comme un mécanisme de sanction, en fait.
D'accord.
C'est une conséquence comme une autre, quoi. Le conséquence, c'est un échec. Et c'est pas voulu par le système d'être une sanction envers toi. Ça, c'est plus, ça va faire avancer le jeu, quoi qu'il se passe, quoi.
Moi, ouais, j'ai l'impression que pour qu'il y ait approbation ou sanction, il faut que ça soit dit explicitement dans les règles, qu'il y ait vraiment un mécanisme au sens fort du terme et propre au jeu. Propre au jeu auquel on est en train de jouer, en fait.
Bah, pour moi, non. L'approbation et la sanction, justement, alors, elles peuvent être encouragées par un système, mais la plupart du temps, elles vont apparaître dans un jeu de manière sauvage. Le sourire, le rire, ce genre de choses, tu peux pas le prévoir par un système. Tu peux pas dire... si. D'ailleurs, dans le test de Vadémécom qu'on a fait l'autre jour, on s'est aperçu que certaines compétences du style humour noir et tout ça, où il faut faire rire les joueurs autour de la table, c'est des compétences qui sont mal écrites, qui vont disparaître probablement de la base, hein, parce que justement, ça marche pas, ce genre de règles. Il faut faire rire les gens, enfin, il y a un côté très artificiel. L'approbation, la sanction, tu peux pas vraiment la coder par la base. Tu peux l'encourager. Le système peut dire s'il y a approbation, alors, mais il ne peut pas dire lorsque ceci, alors approbation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il faut pas, ça peut aller que dans ce sens-là.
Ok, ouais. Okay. Adrien. Je suis d'accord avec cette analyse.
Je trouve qu'en plus, les deux peuvent se cumuler et c'est là que ça devient intéressant de voir comment ça se manifeste. Je pense à Sens, notamment, sur le moment où. Donc à partir de néant, les points d'immersion
sont
dans un bol.
On peut citer l'exemple de Prosopopée aussi, hein, qui fonctionne comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Vous connaissez d'autres jeux dans lesquels il y a des jetons qu'on donne rapidement ?
Dans Éveil.
Dans Éveil, il y a ça aussi.
Ouais, mais alors Éveil, ça ne va pas coller avec mon exemple, justement. Parce que tu vas prendre un dé pour le rajouter en appui. En fait, ce que je voulais dire par rapport à Sens... Alors je ne sais pas si ça donne la même chose sur Prosopopée. C'est que souvent, très souvent, ce qui se passe. Donc, quand il y a des dés autour de la table que le MJ a mis, et quand un joueur approuve ce que fait un autre joueur, il lui donne, enfin pas des dés, des jetons, il lui donne un jeton.
Bien sûr, ouais.
Et en fait, j'ai constaté, moi, c'est que, alors déjà, mes joueurs ont eu un petit peu de mal à faire la transition avec le moment où les parties précédentes, les règles précédentes, où le MJ donnait directement des points positifs. Des points, ouais. Donc, cette dynamique, elle a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Et c'est extrêmement intéressant de constater qu'en fait, quand un joueur fait quelque chose qui est bien, il y en a un autre qui dit « Ah oui, c'est cool », et puis qui n'a pas forcément l'idée tout de suite. Et puis il y en a un autre qui dit « Ah ouais, c'est vachement bien, ah ben on pourrait donner un point ». Et puis il donne un point, Et puis les autres, ils font « Ah ouais, c'était quand même vachement cool !» Et puis le joueur qui a donné un point va se mettre à faire « Ah ben, j'en donne un deuxième, tiens, ça en mérite deux. » Ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, c'est, ça se traduit pas, chaque approbation se traduit pas par un jeton supplémentaire, mais qu'il y a une approbation générale de la table qui incite un des joueurs à faire une approbation chiffrée. Mmh. Et inversement, le fait qu'il y ait une approbation chiffrée, ça peut entraîner des approbations exprimées autour de la table, dire « Ah oh bah ouais, t'as raison, ça méritait un point, c'est vachement bien. » Sans pour autant que les joueurs, eux, participent à ça.
Ah, mon expérience d'en ayant était différente, c'est qu'en fait, en général, un joueur en donnait, comme tu le dis, au bout d'un... enfin, il disait « Ah oh, c'est cool », puis il y en a un qui a l'idée, il en donne un. Et après, c'est si les autres... juge que ça en mérite plus de 1, c'est les autres qui ont donné chacun 1 éventuellement, mais c'est pas un joueur qui en donnait 1, 2 ou 3 selon à quel point la table était enthousiaste. C'est plutôt chacun de sa propre initiative se disait ah oui, ça en mérite 1, 2 ou 3, il y en a déjà 1, 2 ou 3 qui étaient donnés, j'en donne 1 ou pas en plus.
Il y a peut-être des joueurs qui sont plus radins que d'autres.
Alors rapidement, peut-être. Pour expliquer ce système, parce qu'on est dans un garage. Donc, une des manières qu'ont trouvé certains jeux pour solliciter des mécaniques d'approbation, c'est ce qu'on pourrait appeler un système de bonbons. C'est-à-dire, en gros, on a au milieu de la table un bol de bonbons qui est disponible pour tous les joueurs. Alors, ce que j'appelle des bonbons, c'est des choses qui vont servir en récompense dans une action à un moment donné. Ça va être des choses qui vont aider les joueurs. Donc, et les joueurs ont le droit de se donner des bonbons entre eux. C'est-à-dire que Adrien, par exemple, autour de cette table... Imaginons qu'on peut le faire même pour ce podcast. Chaque fois qu'Emmanuel a une bonne idée, chaque joueur autour de la table peut donner un bonbon à Emmanuel. Et cette règle est valable pour chacun d'entre nous. D'accord ? Donc, imaginons par exemple, au cours du podcast, Adrien a une bonne idée, on prend un bonbon dans le bol et on lui donne. C'est la règle de prosopopée des jetons dont tu es en train de parler là. C'est-à-dire que, voilà, chaque fois que quelqu'un a une bonne idée, on prend un jeton dans le bol et on le donne à la personne qui a eu une bonne idée. Et ce jeton, par la suite, va pouvoir servir à faire quelque chose de plaisant pour le personnage qui a reçu le jeton ou le joueur qui a reçu le jeton. Alors, donc, et voilà, il faut bien préciser ça. Voilà. Donc ça, c'est une mécanique du système qui permet de matérialiser dans le système, par le système, l'approbation des joueurs autour de la table. Ça va, ça ? Inversement, on peut avoir des mécaniques de sanctions. Exemple des points d'immersion négative dans sens. J'ai du mal à trouver d'autres exemples. Je vous avoue que c'est... Ah,
j'en ai un. Dans l'agence, j'ai le jeton malus.
Adrien.
Qui est... Donc, quand on fait la planification,
exact.
Il y a un jeton qui est placé au centre de la table. Et sitôt que les joueurs ne jouent plus leur personnage, mais réfléchissent en termes méta sur le plan qu'ils sont en train de créer, à ce moment-là, le coordinateur place ce jeton dans le pool des jetons qui seront des jetons embûches qui seront disponibles pendant la partie. Et donc, en gros, c'est si vous ne jouez pas vos personnages, mais que vous jouez vous joueurs, bah vous avez le droit, hein, mais juste ça va être plus dur.
Juste ça va plus dur. Voilà, c'est une petite difficulté en plus. Hein. C'est pas énorme.
C'est pas énorme, mais
c'est anecdotique.
Ça fait la différence.
Mais
parfois,
ça fait la différence. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est un autre mécanique éventuellement de sanctions. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se met en place.
Excuse-moi, non, vas-y, Manu.
Ouais, la question que je me pose, du coup, c'est. Et je me la pose beaucoup sur sens, je me la suis posée pas mal sur métaphore aussi. C'est à partir du moment où il n'y a pas approbation, alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit là, est-ce qu'on est sur de la sanction ? Et comment on fait pour que ce ne soit pas considéré comme de la sanction ?
Oui, c'est-à-dire en creux, en fait. C'est le cas en creux. C'est-à-dire, imaginons, Adrien a une idée qu'il juge bonne et personne ne lui donne du jeton.
Ouais.
Il y a une forme de. Il attendait une récompense, il ne l'a pas eue. Il y a une forme de. Vous me sanctionnez puisque. Alors, si Adrien constate que ça fait sourire les joueurs autour de la table, il pourra toujours, et on voit ça très très souvent dans les parties de sens de prosopopée, faire un signe aux autres en disant. Tu vois, genre, tu vois, par exemple, toi, t'as souri, il va te dire. Il regarde avec les yeux les bonbons et
je vais commencer à gratter la tête.
Oui, et ça. Oui,
give me money, give me money. Des coups de coude et tout. Voilà. Dans les parties de sens, ça arrive quand t'es à fond dans le jeu, t'oublies de donner les jetons. Et des fois, t'es là.
Oui, et ça.
Si tu veux que je lui pète la gueule, faut me donner des billes. Là.
C'est ça. Et ça, on le voit très très souvent. Bon, alors ça peut être contre-immersif. Tu vas me dire, ça va contre la mécanique un petit peu, mais bon.
Pas tant que ça, parce que c'est montrer qu'on est à fond dans la fiction et qu'on a besoin de ça pour continuer.
Ouais, moi, je laisse passer carrément. Maxime. Aussi. Il y a aussi un truc, dans un sens néant, on va peut-être pas en parler, mais le coup de quand tu gagnes une tâche assise, tu vides le bol, ça crée pas mal de. C'est presque un mécanisme de sanction alors que c'est pas vraiment une sanction. Enfin, alors que. Je vois pas en quoi prendre de l'acide, c'est une sanction, tu vois. Et du coup, moi, ça a créé pas mal de frustration pour les joueurs. C'est à des moments où, je vide le bol, t'as pris une tâche acide, et là, il est là. ah mais du coup on a encore moins de billes, on est encore plus obligé d'en prendre, et du coup ils se retrouvent comme des cons, quoi. Et là tu te retrouves avec sanction, et
ouais.
Alors qu'ils font des trucs cool.
Sauf que moi je le vois plus comme un mécanisme qui vise à les utiliser justement, où les joueurs se disent bah finalement, enfin moi c'est comme ça je l'avais vécu quand j'avais joué, c'est-à-dire que si on les utilise pas et qu'il y en a un qui prend une tâche et que tout est parti alors qu'il en restait plein dans le bol, finalement c'est dommage quoi, c'est on a complètement raté notre...
Alors deux choses là-dessus, c'est que...
Je viens de recevoir un bonbon de Natacha, j'ai l'approbation. Merci.
Alors deux choses là-dessus par rapport à l'immersion négative, parce que là on commence à parler comment l'approbation et la sanction finalement soit apparaissent en creux l'une de l'autre, soit sont utilisées. Par exemple, dans Sens Néant, ce système, il permet de montrer que l'acide c'est faire quelque chose de mal, voilà, aux personnes autour de soi, voilà, ils rongent la relation et donc tu fais du mal aux gens qui t'entourent. Enlever les jetons, enlever les bonbons pour tout le monde dans le bol, quand on fait une action, c'est montrer que l'action qu'on est en train de faire, elle est égoïste, elle est personnelle, elle est valable pour soi, mais qu'elle ronge les relations autour de soi. Tu lèves la main, Maxime ? Ok.
Je pensais, t'es derrière la lampe. C'est un autre sujet, mais
Maxime.
Que faire des moments où il y a des systèmes qui disent clairement, normalement quand il se passe ça, tu donnes des jetons, mais où il y a toujours une petite légère part peut-être de subjectivité, genre monostatos. Des moments où on dit, oui, si tu mets ça en avant, alors tu prends un jeton de pouvoir. Et qu'il y a des moments où clairement il est dit dans les règles, si vous considérez que ça les mérite pas, alors là tu empêches l'autre de l'avoir.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que tu as toujours une mécanique de veto.
Ouais, mais c'est
alors, mais ça, je l'ai jamais ça pour vu. Toi c'est une sanction.
C'est une forme de sanction parce que je l'ai vu une seule fois et ça a fait bizarre au joueur où il commence à prendre les il dit bon bah là j'ai mis en avant les souffrances, on dit oh, tu déconnes là, c'est bon, on l'avait déjà fait. Et on garde genre bon, t'as juste répété ce qui a déjà été dit, laisse ses pions et les prends pas quoi. Et là, il y a des joueurs que ça peut les faire bugger, quoi. Genre, ah merde.
Dans ta remarque, tu viens de dire quelque chose de très, très intéressant pour ce podcast. Tu as dit, le joueur, ça lui fait bizarre. Et c'est à partir du moment où ça fait bizarre à un joueur qu'on va considérer que c'est une mécanique de sanction. Et là, on commence à comprendre pourquoi, finalement, on avait du mal à trouver des exemples de sanctions dans l'histoire du jeu de rôle ou dans les jeux de rôle. Et que Natacha disait, pour moi, l'immersion négative n'est pas une sanction. Parce qu'on a cette espèce de présupposé que la sanction, ça fait mal. Adrien, tu voulais ajouter quelque chose ? Je te voyais. Non. D'accord, ok, excuse-moi, je croyais que tu demandais la parole. On a cette idée que la sanction, ça fait mal. Or, comme on est là dans un jeu de rôle, pas pour se faire mal, mais pour encourager la créativité, l'entente collective, le maelstrom pour créer un contenu fictionnel malléable tous ensemble, on n'est pas là pour se faire mal, parce que faire mal... Celui qui a mal, il sort de l'imaginaire, il sort de la créativité puisqu'il a mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, il ne peut pas... quand on a mal, on n'est pas en position de créer quelque chose. Et donc ça explique pourquoi aussi je pense qu'on a du mal à créer... Alors, vous n'attachez pas d'accord ? Je pense que c'est pour ça qu'on a des difficultés à créer des mécanismes de sanctions qui soient créatifs en termes de maestro, mais en termes de jeu de rôle. Emmanuel ?
Il me semble quand même que dans les jeux de rôle tradis... On a investi le MJ d'une espèce de mission de sanction, tout simplement par les événements qui se déroulent. Je pense à un truc con, un jeu comme Vampire. Quand un vampire commence à aller faire le clown au milieu d'un clan de loups-garous, le MJ va le bâcher direct et voilà, il va revenir en quatre morceaux, quoi.
Oui, c'est ça.
Donc
ouais, c'est...
on est quand même sur quelque chose qui, pour le coup, qui fait mal. Histoire de redire, non, c'est pas du tout cohérent avec l'univers, c'est pas du tout cohérent avec ton personnage.
D'accord, ouais.
Après, un MJ non dirigiste, il aurait fait des trucs. Un MJ plus dirigiste aurait fait des trucs pour que le joueur n'y ait pas.
J'ai une question, justement, quand on parle de vampires et compagnie. Les mécanismes d'approbation, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les jeux tradis ?
Les mécaniques d'approbation ?
Ouais. Est-ce que dans Vampire, vous en avez en tête ou autre ?
Alors.
C'est une question piège, hein.
Non. Attends, je suis en train de chercher quand même.
Des mécaniques pures comme ce qu'on parle, des prosopopescences et compagnie, des dons de jetons.
Pas forcément de dons de jetons, non. Quelque chose qui récompense un comportement.
Il y en a une. Il y en a une, c'est les points d'expérience.
Ouais, l'XP,
que
à la fin.
Mais c'est la seule.
Il y a beaucoup de tradis. L'XP à la fin, tu fais une sanction et une récompense.
C'est pas pour tout le monde.
Moi, j'ai souvenir de jeux, je crois que c'est Prophétie, entre autres, où l'XP à la fin dépend de. ce qu'on fait les personnes, enfin de il y a plusieurs catégories, genre par exemple la découverte, est-ce que les PJ ont découvert des lieux ou des personnages importants, les enfin etc. Et donc ça pousse à aller à explorer le jeu dans certaines directions et donc avoir des récompenses appropriées. Mais effectivement, c'est ce que tu disais, c'est l'expérience à peu près.
C'est l'expérience qui jouait ce rôle avant.
Souvent, il y avait marqué le joueur, les joueurs gagnent entre 100 et 500 XP en fonction de ce qu'ils ont fait pendant ce scénar. Et donc, c'est de la pure subjectivité du MJ, où tu as le bon joueur, entre guillemets, celui qui a été très présent, qui a fait plein de choses, il gagne 500 XP. Et ça peut créer des... Enfin, moi, ça n'a jamais créé de conflit parce que les autres étaient d'accord. Hein. Quand tu dis, bon, bah, machin, clairement, je suis désolé, il gagne 500, vous en gagnez 300, 300, 400. Après, au bout d'un moment, tu commences à, assez rapidement dans ta pratique, tu commences à filer la même chose à tout le monde. Quoi. Mais, enfin, moi, en tout cas.
Moi, j'ai fait ça avec des parties de Westland, par exemple, où le système est un peu le même. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais ça un petit peu à l'applaudimètre, en rappelant les actions, en disant « Ah bah ouais, quand même, tel joueur, à un moment, vous vous souvenez, il a fait ça, vous trouvez pas quand même que ça mérite ?» Et puis si toute la table approuve, encore une fois, on est sur un mécanisme d'approbation, mais alors a posteriori, là, pour le coup, tu peux dire « Bon bah ok, tout le monde trouve que t'as été génial sur cette action-là. »
Il y a ça dans The Burning Wheel, du coup, qu'on a fait récemment.
C'est vrai qu'il y avait cet aspect-là aussi, avec le fait de discuter de qui s'en est le mieux sorti, qui a... Ouais. Mais après, au final, je pense que sur tous ces jeux-là, où il n'y a pas forcément de mécanisme explicite, c'est peut-être les jeux où on juge le plus la qualité d'une partie à la quantité d'approbation qu'il y a pu avoir au cours de la partie, qui ne soit pas chiffrée, justement, de dire, ah bah, tiens, encore une super idée, ou une super scène, ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais,
c'est quelque chose de, pour le coup, complètement non chiffré, mais qui est extrêmement impactant sur le Maelstrom et sur la partie.
Voilà, l'aspect avec lequel je suis d'accord, c'est que, en fait, pour moi, dans le jeu de rôle traditionnel, vu que c'est un jeu qui a vocation à être joué en campagne, tu n'as pas besoin... En fait, le mécanisme d'approbation n'intervient pas pour maintenir les gens dans la partie, mais pour maintenir les gens dans la campagne. Et donc, le point d'expérience qui est basé en tant qu'approbation à la fin du scénario, c'est quelque chose pour vous dire, regardez, vous avez une récompense pour avoir joué cette partie-là.
Revenez la fois prochaine.
Est-ce que c'est mécanique d'approbation ou est-ce que c'est pas mécanique de... Merde, j'ai pas le mot. Pardon, je n'ai pas le mot.
Alors là, je suis
pour moi, c'est de l'approbation. Parce
le
qu'en
temps
fait,
que tu retrouves.
C'est pas de l'addiction, c'est une forme de. Reste.
De la rétention.
Ouais, plutôt.
Ouais. Pour moi, c'est vraiment de la récompense parce qu'en fait, le joueur qui va se sentir lésé et qui aura eu peu de points, c'est peut-être aussi que c'est pas le genre de jeu qui lui convient. Si il a fait n'importe quoi et qu'il n'était pas dans le canon du jeu, ben, il aurait eu moins d'XP et ça semble logique.
Alors là, je suis en train de regarder Vampire. Je suis en train de regarder Vampire pendant que vous parlez pour voir un petit peu comment l'expérience est donnée, parce que c'est quand même un jeu assez canonique et assez classique de ce point de vue. Donc il y a un point automatique qui est donné à chaque joueur à la fin de chaque chapitre, c'est-à-dire que le fait d'être là au cours de la table déjà donne un point. Il y a un point pour l'apprentissage, c'est-à-dire vous demandez au joueur ce qu'il a appris de sa partie et vous lui donnez un point. Il y a un point pour l'interprétation du rôle, c'est-à-dire est-ce que le joueur a bien interprété le rôle de son personnage, est-ce qu'il a agi comme son personnage aurait agi, etc. Un point pour ce qu'on appelle l'héroïsme dans Vampire, c'est-à-dire en de rares occasions se comporter comme un héros. Voilà, il y a aussi un point pour le succès, c'est-à-dire s'il a gagné plusieurs gestes, il a réussi des jets. Il y a un point pour le danger, si le personnage a survécu à des dangers importants. Il y a un point pour la sagesse, le joueur dont le personnage a mis sur pied des plans brillants, etc. Et donc, ici, à aucun moment, il n'est dit, même si c'est tacite, c'est indirect, il n'est vraiment dit que le MJ récompense telle chose, vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
Mais quand même,
parce que c'est quand même le MJ qui se pose en arbitre de subjectif.
Il n'y a pas écrit que ça récompense, tu vois. Ils disent que c'est pour augmenter les personnages. Ah si, si, si. Certains, si vous en donnez plus à certains joueurs que d'autres, vous risquez de voir apparaître des favoritismes. Oui, donc ça, en creux, ça suppose que tu as des choses favoris, que tu... Voilà, et du coup, ça implique le tout le monde pareil, ou en tout cas, voilà.
Et je pense qu'on peut très facilement, justement, le transformer en sanction en disant, bah, tout le monde pareil, tiens, sauf Adrien ou sauf Maxime, parce que Maxime, là, franchement, t'as foutu le bordel à la table.
Alors, tu vois, justement, voilà, d'où la volonté de Vampire, je pense, d'avoir un truc très objectif. Vous avez vu, là, un point pour ça, un point pour ça, un point pour ça, etc. On a presque envie de dire, le maître de jeu, il a son livre ouvert, et puis il prend les joueurs autour de la table, il leur dit, bah voilà...
Mais ça reste de l'approbation.
Oui, c'est de l'approbation.
Dans Prosopopée, il pourrait y avoir une règle avec plusieurs points qui dirait, vous aurez le droit de donner un jeton si... La description qui est faite est belle parce qu'elle fait intervenir, tu vois, il y aurait une liste d'éléments, fait, parce que c'est ça qu'a envie d'encourager l'auteur.
Je suis d'accord, mais tu vois...
Là, c'est plus restrictif.
Bon, on est d'accord.
Mais je pense que c'est on le retrouve quand même.
Donc voilà, donc, pour répondre à ta question initiale, Adrien, avant de passer la parole à Manu, la mécanique d'approbation principale du jeu de rôle traditionnel, c'est l'expérience. Hein, clairement.
J'ai pas d'autres exemples. Hein. Moi, c'est celui que j'avais en tête.
S'il y en a d'autres, c'est les bonus dits de circonstances.
Ah oui.
Quand tu. Quand
mais qui sont rarement écrits dans les règles.
Si, très souvent. Par exemple, dans Agone, dans des jeux. Souvent, très souvent autour des caractéristiques sociales, tu verras très très souvent des paragraphes qui t'indiquent si le joueur a fait un roleplay suffisant, ne faites pas lancer le dé, il réussit automatiquement ou ce genre de choses. Ça te parle, ça, Adrien, toi ?
Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir vu dans les règles. Mais
c'est une mécanique d'approbation d'une certaine forme de jeu, d'une certaine forme de roleplay, puisque tu donnes en récompense un succès automatique à un joueur. Manu ?
Alors, la grande question que ça me fait me poser, tout ça, c'est est-ce que, du coup, ces mécanismes d'approbation et de sanction, ils se supplaient pas au contrat social ? Au sens où...
C'est pas qu'ils se supplaient, c'est qu'ils vont avec.
Je me suis vraiment posé, tu m'as demandé notre posture de créateur, je me suis vraiment posé la question pour métaphore, où il y a un mécanisme de création qui est extrêmement important par les joueurs au cours de la partie, et où je me suis dit à un moment, il faut que je passe par un mécanisme d'approbation, et également, on en a reparlé sur un playtest, une possibilité de sanction au cas où il y ait des comportements qui ne soient pas fair play, ou qui brident, ou qui soient dangereux. Je crois que c'est Natacha qui m'a répondu à un moment, oui, mais finalement, ça, c'est le contrat social et normalement, t'as pas besoin de le remettre en plus.
Alors là, moi, je suis pas d'accord avec Natacha sur ce point. Pour moi.
Je dis Natacha, mais elle fait pas de signe d'approbation.
Non, mais elle,
il y a quelqu'un qui m'a dit. Voilà,
non, mais il faut accuser, c'est bien. Ouais,
c'est bien. Accusons. Et puis en plus, elle est là. Donc,
Et je me suis vraiment posé la question, en fait, effectivement.
Le point, si tu veux, c'est qu'à mon avis, tu as raison de signaler l'extrême liaison qu'il y a entre ce dont on est en train de parler là, à savoir de l'approbation, et le contrat social. Alors, je voudrais juste faire, avant de parler de cela, peut-être faire un sort à la sanction. On a appelé ce podcast « Approbation et sanction ». Je pense qu'on peut d'ores et déjà se débarrasser de la sanction. Parce qu'il me semble qu'on a plus ou moins montré, mais j'invite aussi à lire des articles de Frédéric Saint-Est, s'il en a écrit sur ce sujet, j'en suis pas certain, parce qu'on en a beaucoup discuté à titre personnel tous les deux, mais je ne crois pas qu'il en ait écrit sur la sanction. Par exemple, quelqu'un comme Frédéric pense... c'est mon argument d'autorité du jour, pense que la sanction, il ne faut jamais encourager cela dans un système. Moi, je l'explique par le maestrom, c'est-à-dire, je vous dis, quand on a la sanction fait toujours mal, et comme on a mal, on ne pense pas à créer, on pense d'abord à se protéger, on se met en défi par rapport aux autres joueurs, par rapport à leurs personnages, on les oublie, en fait, c'est les joueurs qui nous font mal, c'est ce jeu qui nous fait mal, et donc du coup, on n'est pas dans une position de créer. Tout ça pour dire, est-ce qu'on peut s'entendre autour de cette table pour dire à nos auditeurs qui nous écoutent en garage, éviter les mécaniques de sanctions, encourager plutôt l'approbation ? Est-ce que là, on est globalement d'accord ?
De façon générale, je serais d'accord. Je mettrais un sauf, qui est sauf si vous essayez de faire un jeu, justement,
voilà.
Qui tape sur les joueurs, qui les fait souffrir, qui... Enfin,
voilà, un jeu
tourne
qui
autour
aurait,
de ça. Quoi.
Voilà,
où votre objectif, c'est qu'à la fin, les joueurs partent en ayant eu mal. En ayant eu mal, quoi.
Mais les joueurs, pas les personnages, tu vois.
Ou les deux, enfin,
ça, deux,
ça
ouais.
peut les deux, peuvent aller de pair.
Oui, parce qu'on peut approuver le fait que notre personnage souffre
voilà,
facilement,
c'est ça.
Donc c'est plus de la sanction.
Tout à fait.
Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'une règle dans un jeu qui dit si machin il fait tel truc, virez-le de la table. Quoi. C'est pas la peine, ça c'est les humains qui réagissent entre eux, il n'y a pas besoin de règle là-dessus.
D'accord.
Même si ça peut...
Par contre, tu dis on peut aimer Manu, que notre personnage souffre, et le truc, c'est ce que dit Romaric, c'est que c'est le joueur qui souffre dans la sanction.
Mais c'est ça en fait.
Et c'est pas faire souffrir le personnage, oui, mais... en récompensant le joueur, ça me paraît plus intéressant.
Ce dont
faire
parle Adrien là, c'est de la synesthésie, c'est-à-dire qu'on peut vouloir faire souffrir le joueur au moment où son personnage souffre pour essayer de créer une mécanique synesthésique.
Je dis pas que c'est un truc qui est faisable, je dis que c'est un truc qui est... Enfin, ça... faut pas le bannir absolument parce voilà. qu'on se restreindrait ce
faut type
d'exploration.
Fontaine. Voilà, faut pas dire Fontaine, enfin, faut pas dire... Non mais c'est ça, faut jamais dire jamais, c'est-à-dire que c'est pas parce que là, dans ce podcast, on vous dit créateur de jeu, ne l'encouragez pas, que vous pouvez pas créer un jeu dont c'est la thématique,
c'est
et que ça peut être très intéressant.
Je vais revenir sur... que tu disais de on n'a pas besoin de sanctions pour dire un joueur ne joue pas à ce jeu, etc. En fait, un des grands problèmes...
Ce que disait Emmanuel. C'est pour ça que j'ai rajouté Emmanuel dans la phrase.
un des grands problèmes souvent du jeu tradit, c'est aussi un problème de sens, mais qui du coup est résolu grâce à ça, c'est qu'en fait, quand on s'embarque dans une campagne, on va avoir des moments qui vont nous plaire, des moments qui ne vont pas nous plaire, et puis des fois, ça arrive qu'un joueur, juste, il se fait chier. Ouais. Et ça va être le cas à chaque scénario. Et discuter... de « ben écoute, ça me plaît plus », c'est quelque chose qu'on fait difficilement parce qu'on a peur de vexer le MJ. Si un joueur se comporte mal en tant que MJ, on n'ose pas lui dire parce que ben, on n'a pas envie qu'il se sente rembarré. Si les règles le prévoient, type l'immersion négative, qui au final est une petite sanction... Et,
en une fait, récompense elle est... aussi quelque part. Enfin...
Pour moi, oui, ben, en fait les joueurs se mettent à en jouer, mais pour moi, c'est souvent ce que je dis à mes joueurs, c'est ne la voyez pas comme une sanction, elle va tomber, vous en aurez tous, hein, ça va arriver, c'est pas grave, jouez-en. Si vous avez envie de faire une blague, ben, vous lâchez pas et vous aurez votre point d'immersion négative, après tout, c'est pas grave. Par contre, moi, ça me permettra de, si un d'entre vous fait vraiment n'importe quoi et ne colle pas avec le jeu, ou si l'un d'entre vous n'a pas envie
ça
de jouer,
permet à la fin de
dans
de
le jeu,
de la table...
on peut justifier le fait que vous quittiez la table. Et ça, cet élément-là, il est vachement important, parce que ça permet justement d'éviter ce problème du joueur qui est piégé à la table, parce que ben, c'est ses potes, il ne veut pas leur dire que c'est chiant, c'est... Enfin voilà.
Oui, mais c'est plus le jeu de rôle, c'est le moment social entre copains, on n'a pas envie de l'abandonner parce qu'on a peur de ne plus voir ses potes.
Et là, il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça. Il n'y a aucun jeu qui envisage ça. C'est ça et la mort des personnages, c'est deux choses qui ne sont jamais discutées dans les... Enfin, très peu discutées dans les jeux.
La mort, si, mais...
Il y a plein de jeux qui ont une règle pour la mort, mais qui, au final, tu te rends compte qu'en fait, il ne faut pas l'appliquer, parce que si le personnage meurt, c'est une frustration énorme.
Autre sujet de podcast ?
Oui, je pense. J'aurais plein de jeux à citer à nouveau. Ouais. Ouais. Donc,
après, je suis pas tout à... juste pour répondre à Adrien, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que c'est cool parce que ça permet d'amener en dehors de la table le joueur qui s'ennuie. Moi, j'en ai eu un comme ça sur Sens. Heureusement, bien avant que les points d'immersion négative le fassent sortir de la table, il y a un moment où, en pleine partie, il a pété un câble et il m'a dit « ça me va pas du tout ». Ta façon de mener me plaît pas du tout, le jeu me plaît pas du tout, je m'en vais. Et donc
t'as dit ça comme quel... ça.
Ouais. Ça a été assez violent. Donc la situation pourrissait depuis un moment. Et comme en fait c'était un vrai, qu'il y avait un vrai malaise, ça m'aurait paru extrêmement moche d'accumuler les points d'immersion négatifs jusqu'à la nuit.
Je t'aurais pas dit ça. Ce que je dis, c'est pas que le jeu pousse à faire ça.
Tu veux,
c'est que toi, suite à une séance, t'aurais discuté avec lui et tu lui aurais dit, ben écoute, à ce moment-là, on peut considérer que tu as annihilé parce que c'est cohérent.
Voilà, c'est une bonne manière de finir ton personnage et de finir la campagne sans être le relou, quoi. Enfin, c'est de façon à apporter quelque chose, quoi. Alors, finir en apportant.
Ce que je dis, c'est ne virez pas vos joueurs à coup d'arguments autoritaires du type ton immersion négative est tombée à fond, t'es viré. Il y a toujours le dialogue avant, bien sûr. On est quand même entre gens humains, sociaux.
Mais t'as raison de dire que c'est pas un dialogue qui est facile.
Non, et effectivement.
Et ça soulève peut-être la question aussi des mécanismes d'approbation du MJ.
Alors justement, stop, je vous réagis rapidement parce que c'est un garage, faire un petit résumé. On a dit donc que les mécaniques de sanctions, les mécaniques, les systèmes qui encourage la sanction, ou en tout cas qui quantifie la sanction, on n'a pas d'exemple. Premièrement, on n'a pas d'exemple à vous donner dans ce garage. Et deuxièmement, c'est nous, personnellement, à titre personnel, on pense que pour encourager le Maelstrom, ce n'est pas une bonne idée. Sauf ce que dit Adrien, c'est-à-dire qu'on peut faire un jeu dont c'est le propos. Enfin, bon, ça déjà, premier point. Ensuite, on a dit que l'approbation, c'est quelque chose de naturel, qui se déclenche naturellement autour de la table. Et le système ne peut que accompagner cette approbation en matérialisant cette approbation en son sein pour donner des bonus au personnage. On a cité plusieurs exemples. Premier exemple, l'exemple traditionnel, des points d'expérience. Le meneur de jeu ou les joueurs autour de la table se donnent de l'expérience pour se féliciter entre eux, approuver entre eux ce qui s'est fait. Dans le jeu de rôle traditionnel, c'est l'expérience qui servait comme ça de moteur d'approbation en général. On a cité le bonbon, les fins d'exemple du bonbon, les petits dés au milieu de la table qu'on se donne entre joueurs, l'exemple de prosopopée, l'exemple de l'agence qui mêle à la fois approbation et sanction avec le jeton qu'on rajoute si les joueurs ne font pas, etc. L'exemple de sens néant. Donc voilà, déjà on a comme ça quelques trucs d'approbation.
Alors,
maintenant.
Ouais, moi j'ai une question du coup. Qu'est-ce que vous préférez ? Enfin, je ne sais pas si c'est très utile dans un garage. Mais
on fait peut-être le tour de toutes les solutions.
Il y en a d'autres,
bah, je sais pas, je pense qu'il y en a d'autres, oui.
Ah bah
mais oui, je pense même à plein d'autres en fait.
Là, en fait, dans ce qu'on a parlé du bonbon, on a parlé du bonbon donné entre joueurs jusqu'à présent, et il y a aussi le bonbon donné par le MJ.
Voilà.
Qui se pose en tant que garant et arbitre de la partie.
Mais c'est toujours un peu le même système, tu vois.
On en a parlé en disant les bonus de circonstances, par exemple, et compagnie.
C'est vrai, ouais. C'est vrai.
Et même l'XP, des fois c'est les joueurs entre eux, mais souvent c'est le MJ qui la donne, quoi.
Alors attention, hein,
oui,
le bonbon,
elle est de fin de partie, le bonbon il est de pendant la partie.
Ce que j'ai appelé le bonbon, c'est la mécanique de don. C'est vraiment quelque chose d'uniforme, le bonbon. Ça peut pas être un jour un point d'XP, un jour un ceci, un jour un cela. Sinon tout est bonbon, enfin tout ce qui.
Ouais.
Donc tu vois ce que je veux dire. Pour moi, le bonbon, c'est vraiment un bol avec des dés, un bol avec des jetons, un bol avec quelque chose et qu'on donne. Enfin, c'est vraiment une mécanique particulière. C'est pas n'importe quelle récompense.
Il
faudrait vraiment revenir parce
ouais,
que
pardon,
il faut de la structure.
En pensant en bol.
Oui, vas-y,
en pensant bol, je me pose la question si dans Éveil, le bol de Buzz sert vraiment de mécanisme d'approbation.
Alors,
parce qu'en fait, en tant qu'MJ, on récompense les personnages lorsqu'ils font des actions qui font parler du groupe et de leurs problématiques.
Attends, comment ça marche déjà ? Ah oui, c'est ça, c'est en fonction de ce qu'on entreprend comme action, toi en tant que meneur, tu rajoutes des choses dans le bol.
C'est ça.
Oui, mais là... C'est une récompense, une approbation de la fiction. T'as
oui,
des choses à
ça.
Dire, Vivien. Vivien est arrivé sur ce podcast.
Vivien,
ça va ? T'as la pêche ?
Ça va. C'est Emmanuel qui m'a donné le micro, mais...
mais il avait rien à dire.
Non, si...
Ah si, toi t'as des choses à dire avec...
Ah bah peut-être, mais pas ouais. Là... en tout cas, sur Éveil, moi je l'ai ressenti comme un mécanisme d'approbation, mais...
D'accord.
Après, okay. Si ça a évolué depuis mon test à ce niveau-là...
Non, ça...
Bon,
bah
alors c'est clairement un mécanisme d'approbation.
Mais reste avec nous, Vivien, parce que je pense que t'auras des choses à nous dire dans ce podcast. Alors, ce que je voulais aborder, c'était cette histoire de contrat social. On l'a un petit peu balayé rapidement. On a donné quelques exemples.
Ouais.
Le contrat social. Alors, le contrat social, ce qui est clair, c'est que les mécaniques qui accompagnent l'approbation des joueurs, des participants autour de la table, qu'ils soient MJ, joueurs, etc., sont extrêmement dépendantes du contrat social. Autrement dit, changer le contrat social. C'est nécessairement, s'il y a de telles mécaniques, c'est-à-dire des mécaniques qui encouragent et qui récompensent, enfin qui matérialisent l'approbation des joueurs autour de la table, s'il y a de telles mécaniques, si le contrat social change, ces mécaniques vont changer aussi.
Oui.
Adrien.
Si on se met à jouer à prosopopée de façon ludiste et qu'on va à tout prix être celui qui résout les problèmes, on va arrêter de se récompenser les uns les autres, sinon c'est donner des billes à l'adversaire. Donc,
voilà. Sinon, on le fera quand on donnera des bonbons, quand quelqu'un aura réussi un jet de dés à ce moment-là et que voilà, on... C'est absurde. Hein.
C'est un exemple absurde, mais c'est fait exprès.
Mais
j'aime
bien
les exemples par l'absurde.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les mécaniques du système qui jouent avec l'approbation, c'est-à-dire qui attendent qu'un joueur soit heureux avant de déclencher une mécanique qui va récompenser ce joueur pour son bonheur ou attester... Enfin, c'est vrai, c'est compliqué, hein. Ça te fait marrer, mais c'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Mais voilà, dépendent du contrat social. Parce que dire « on est là pour s'amuser ce soir », ce n'est pas suffisant. On doit dire aussi pourquoi et comment on va s'amuser. Et donc, du coup, les l'approbation est toujours orientée. C'est-à-dire, c'est l'approbation sur, par exemple, une victoire dans la compétition. C'est « Ouais, cool, t'as fait une super action, t'as réussi à le vaincre. » Ou alors « Ouais, cool, c'était trop beau ce que t'as dit. » Ça, c'est le simulationnisme. Ou alors « Ouais, trop cool l'histoire que t'as faite. » Ça, c'est le narrativisme, on va dire, pour faire simple. Hein. Mais en gros, fonction de ce qu'on va vouloir encourager et de, comme approbation, on va se retrouver avec des mécaniques différentes. Et pour le contrat social, c'est pareil. Vivien.
Je m'interroge sur le contrat social, mais je suis désolé parce que je prends le truc en cours. Parce qu'il me semblait que au niveau de la, enfin, si on entend le contrat social au sens de Ron Edwards ou pas.
Vas-y, fais péter.
Il me semblait que Ron Edwards.
Big model, tu peux dire.
Ouais, le big model. Il me semblait que le contrat social, c'était de toute façon le gros truc, quoi. C'est le truc qui regroupe tout. Donc quand on change des trucs, on change nécessairement le contrat social de toute façon.
Oui, tu as raison.
C'est l'ensemble des mécaniques de la totalité des trucs. Quoi. Donc finalement, on ne peut pas suppléer au contrat social, on ne peut pas rajouter. Enfin, on peut rajouter au contrat social, mais ça s'intègre au contrat social au final. Quoi.
Non, mais là, on parle de changer les mécaniques.
D'approbation.
Oui, mais non, mais t'as raison. Oui, mais non, mais c'est clair, putain, t'as trop raison, Vivien.
Mais en même temps...
C'est débile ce que je viens de dire.
J'ai toujours
raison. Est-ce que... Adrien donne un bonbon à Vivien. C'est bien,
tout ça parce qu'il a montré que j'avais dit quelque chose de débile. C'est ça.
Sanction.
Ouais, mais je.
Allez, vu que t'as reconnu que t'étais débile, je vais te donner un bonbon aussi.
Insupportable.
Oh, merci, Adrien. Oh, c'était trop gentil. Je le prends. Hein. T'as vu, je l'ai bouffé direct.
Ah, bah, j'ai vu, ouais. T'as peur qu'on te le retire. Hein.
Est-ce que dans ce cas-là, ça veut pas dire qu'il y a que le contrat est pas très bien établi, un truc tout con, mais du coup je me demande pourquoi est-ce que dans ce sens on a vraiment besoin des points d'immersion négative alors qu'on pourrait juste rappeler à ce moment-là au joueur qu'il il respecte plus le contrat.
Dans ce sens, c'est différent parce qu'ils ont d'abord ils ont un impact sur l'histoire comme l'a dit Adrien, c'est-à-dire qu'ils ont une raison métaphysique.
Et puis ils mettent des malus au joueur, ils mettent des malus au personnage, donc t'en as besoin parce qu'en rendant le personnage moins fort, tu lui fais comprendre mécaniquement que son comportement ne va pas. Et du coup, si tu lui dis, faut dire ce qu'il y a, si t'as un joueur qui en face de toi a décidé d'être un troll, je sais pas pourquoi je regarde Adrien. c'est un joueur qui
attends,
est devant
je
toi.
Un jeton.
Il a décidé. il a décidé de faire chier. Si t'as juste dit, attention, c'est pas bien, et que tu reprends la partie telle quelle, le joueur, c'est comme un enfant entre guillemets. C'est le joueur va dire, ouais, ok, mais dans l'histoire, il m'arrive rien. Alors que s'il se prend un jeton, il lui arrive quelque chose. Tu peux faire ça, tu pourras tester ça avec tes enfants. Tiens, c'est un jeton rouge.
Manu.
C'est vrai que ça rend la chose assez scolaire finalement, de dire bon bah voilà, nos joueurs sont des gamins et on a besoin nous maîtres d'école de à un moment sanctionner ou vraiment enfoncer le clou pour dire oui c'est ça qu'on veut ou c'est ça qu'on veut pas.
Dans une certaine vision des choses, sauf que tu peux le voir différemment. C'est-à-dire que le côté maître d'école, c'est aussi peut-être au sens maître du jeu, c'est-à-dire au sens où toi, tu sais la direction esthétique, métaphysique de l'univers et t'es là justement pour la leur apprendre. Mm-hmm. Donc on peut le voir comme une sanction méchante, bête et méchante de la règle, ça fait mal, etc. Ou alors, on peut se dire aussi que en un sens, la sanction, c'est-à-dire éprouver, faire l'expérience des limites, eh ben, c'est bon parce qu'on apprend à ce moment-là. Ouais. Tu vois. Et l'apprentissage, pour beaucoup... C'est ce qui fait le plaisir, tu vois ce que je veux dire.
Et ouais, vas-y.
Je me pose une question par rapport à cette comparaison maître de jeu, maître d'école. J'avais lu quelque part à propos de la gestion d'un groupe d'enfants, de jeunes, t'interdire de les punir t'obligera à les occuper. C'est du coup, je me demande si en fait, quand t'arrives à intéresser les gens au jeu autour de la table. T'as pas besoin des mécanismes de sanction parce que de toute façon ils vont se discipliner tout seuls.
C'est ça exactement.
Tu veux dire qu'en fait quand le MJ donne une sanction à quelqu'un, en fait il se la donne aussi à lui-même dans
exactement.
Le fond.
Exactement. Exactement. Et ça c'est un truc dont on n'a pas parlé là, mais évidemment dans le sens c'est exactement
ça. Il reconnaît
ça.
Qu'il a pas fait son bon boulot de MJ.
D'ailleurs souvenez-vous, hein, dans Sens Renaissance c'est écrit si tu donnes un point d'immersion négative, c'est que tu as échoué. Enfin souvenez-vous, hein, c'est clairement écrit. Natacha, merci. Bien.
Et alors justement, moi, ça me réappelle à la question de l'approbation du MJ. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour dire... D'accord. Moi, je suis très jeu MJ, hein, donc c'est vrai que je recentre là-dessus. Mais est-ce qu'il y a des mécanismes ? Est-ce que vous voyez des jeux où, Ou finalement, est-ce que c'est spontané? Est-ce que ça se traduit par du désordre autour de la table quand il n'y a plus cette approbation? Comment alors, vous le voyez, vous?
Attends, c'est-à-dire, c'est quoi, j'ai du mal à saisir.
De l'approbation de la table OMJ. On a vu comment ça se passait dans le temps.
J'ai un exemple,
vu dans la
alors je ne me rappelle plus exactement du point de règle. Dans Vermine, le MJ aussi gagne de l'XP et je crois qu'elle est distribuée par les joueurs.
D'accord, oh, c'est intéressant.
Et donc ça donne le droit de mettre un peu plus de méchants, un peu plus de surnaturel, de... enfin voilà, des trucs comme ça.
Si le... l'auteur de Vermine nous écoute, il peut prendre un bonbon.
je pense que l'approbation se crée quand t'as des joueurs qui sont enthousiastes à la fin de la partie à l'idée de programmer tout de suite la partie suivante. Oui. C'est-à-dire que quand t'as des joueurs qui font oh, putain, vas-y, quand est-ce qu'on fait? Vous êtes dispo tous demain et que tu vois les joueurs qui font ça, là t'es, t'as ton petit cœur de MJ.
Ça, c'est pour le MJ, ouais.
Et moi, ça m'est déjà arrivé dans une partie de Sens que je sais plus comment, mais il s'est passé une putain de scène avec des. Pardon, une très belle scène avec des PNJ. Et j'ai un de mes joueurs qui a fait oh là là, il a pris un jeton dans le truc et il me l'a donné.
Oui, mais ça nous est tous arrivé, je crois.
Moi, en tant qu'MJ, j'ai pris plus de points d'immersion négatifs que de points d'immersion positifs, mais je pense que j'en ai pris.
Ça, c'est pas bien.
Moi aussi.
Et du coup, il y a des gens, il y en a d'autres qui l'ont regardé et fait « Mais qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que tu lui fais ?» Et du coup, je m'en suis servi derrière pour leur défoncer dans un entraînement. Ils étaient « Ah, non, j'aurais jamais dû faire ça. » Bon, c'est alors, drôle.
Ouais, juste un point, nous sommes dans un podcast Garage. Pardon, alors, oui. Je vous rappelle un petit peu la ligne éditoriale du Garage. Le but, c'est de donner des exemples. On est des créateurs nous écoutent et on doit donner des exemples de mécaniques d'approbation et en expliquer les avantages et les limites. On a beaucoup parlé de Sens. J'aimerais bien qu'on passe sur Sens un petit peu et qu'on parle aussi des autres jeux dans lesquels... Maxime s'en va. Dans lesquels il y a des mécaniques d'approbation et de sanctions. Et si oui, qu'est-ce qu'il vise à incarner? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pas? Est-ce que vous avez des exemples de jeux dans lesquels les mécaniques d'approbation sont très bien faites, dignes de louanges, d'exemples? Non, t'as pas d'exemple, Emmanuel?
De trucs très bien faits, non. Par contre, je peux peut-être vous expliquer pourquoi j'ai abandonné l'approbation sur justement de mauvaises idées, l'approbation sur métaphore. En fait, donc le principe c'était de dire quand il y avait quelque chose de bien qui était écrit, on pouvait venir appuyer et ça renforçait la proposition de façon à favoriser le succès.
D'accord.
Et en fait, si Xavier nous écoute, voilà, je peux lui rendre hommage parce que c'est lui qui m'a soulevé le truc. Il m'a dit ton mécanisme il est en totale contradiction avec le principe de Xegué, qui fait que on n'a aucune raison de ne pas s'approuver nous-mêmes et que dans ce cas-là, il m'a dit moi j'approuve tout le temps. Enfin, finalement, ça me coûte rien, j'approuve tout le temps. C'est là que je me suis dit que du coup, la seule façon d'avoir ces mécanismes de bonbons, c'était qu'ils soient limités ou que ce soit douloureux derrière, quoi. Est-ce qu'il, pour un mécanisme d'approbation...
Le bonbon va nous filer la gastro ou alors...
C'est exactement ce qu'est en train de faire Adrien, on est d'accord. Mais c'est ça, tu acceptes le bonbon, mais tu sais qu'il y a un risque non négligeable derrière que tu sois malade.
D'accord.
Donc voilà, et ça veut dire qu'il faut assortir le mécanisme d'approbation d'un mécanisme, non pas de sanction, mais de... Enfin, je sais même plus trop comment dire là, et je suis un petit peu perdu justement par rapport à l'approbation. Est-ce que ça veut dire que soit tu rentres dans une stratégisation que moi j'aime pas du tout, qui est de dire je mets que 10 jetons, mais du coup les joueurs ils vont calculer, et ça on l'a un petit peu fait sur Réveil, on en avait déjà parlé. Du coup, le fait de dire je calcule parce qu'on a plus que 10 jetons dans le bol, si je t'en donne 3, il nous en restera plus beaucoup pour le dernier boss, donc je t'en donne qu'un, etc. C'est une solution qui me plaît. Pas du tout.
Oui, mais alors, sauf que on oublie de dire un truc sur Éveil, c'est que les succès vont être remis dans
le
bol.
Oui, oui. C'est une des objections qu'on a resoulevées derrière. Voilà. Oui. Mais du coup, voilà, est-ce que dans ce cas-là, ça veut dire que.
Sujet complexe.
Il faut qu'il y ait. Il faut que ça aille seulement dans le sens MJ table, ou alors que derrière, on s'accorde à ce qui est de la stratégie. Alors, est-ce que dans Prosopopée, ça génère de la stratégie, par exemple?
Non, mais je t'arrête tout de suite, Emmanuel. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'à trop vouloir voir du jeu de rôle avec MJ, tu ne finis que par traiter ce type de jeu de rôle-là. Et malheureusement, le MJ, on ne sait pas ce qu'il fait. Ça dépend des jeux, en fait. On ne peut pas dire le MJ doit faire ceci.
D'accord,
ou les joueurs
mais
doivent
l'opposition,
faire cela.
Alors, Emmanuel. L'opposition, parce que, en fait, l'idée, pour que ça ne contredise pas le principe de Xegué, ce serait que ce soit quelqu'un qui n'ait pas intérêt à donner qui donne.
Oui, genre un spectateur totalement impartial
non,
dans l'aventure.
C'est pas tout à fait ça, le principe de Xegué. Hein.
Non, non, le principe de Shaggy, c'est même pas du
c'est
tout
pas ça.
Ça.
Là, en fait, là, ton problème, c'est que t'as peur que les joueurs abusent du mécanisme. C'est ça, hein ?
Mais en fait, ils ont aucune raison de ne pas le faire, quoi.
Si, ils en ont une. C'est que si tu leur donnes une condition, genre, si ça vous plaît, faites-le. Et toi, en tant qu'MJ, les autres joueurs aussi, il y a la règle qui est par-dessus tout, qui est la règle du veto. C'est qu'à un moment où tu vas dire,
non, mais attends,
les gars,
vous faites n'importe
vous abusez,
quoi. Ouais, c'est ça.
Enfin, vous jouez pas au jeu.
Ouais. Putain, oh, j'ai perdu au jeu, dans Dieu, forêt de pute, il en a fait exprès. Putain.
D'ailleurs, moi, je joue pas.
Le podcast était là pour ça.
Se retrouver face à ce problème, ça sous-entend que t'as quand même vraiment des trolls en face de toi, des gens qui ont décidé d'éprouver les limites du système, et donc des gens qui sont vraiment pas là pour jouer au jeu et passer une bonne partie, quoi. Donc t'as envie de dire, rentrez chez vous, les gars, si c'est pour ça, ça sert à rien qu'on joue, quoi.
Globo, t'as entendu Maxime. Ouais, mais en même temps, je pense qu'il peut y avoir un peu de ça aussi. Est-ce que, par exemple, dans le sens, au moment où on sait qu'on va devoir poutrer un gros méchant, est-ce qu'on n'a pas tendance à plus facilement donner les jetons aux copains, quoi ?
Mais tout à
si,
fait.
Si, mais moi, c'est cool.
Dans les combats contre les boss, quand le bol est vide en tant qu'MJ, je rajoute des jetons pour qu'ils s'en donnent pendant le combat et que le combat finisse, quoi. Enfin, honnêtement, sens n'est pas un jeu ludiste, donc on s'en fout que le boss gagne.
Voilà, exactement. C'est parce que c'est pas dans une thématique ludiste, donc on s'en fout.
Oui, sauf qu'on perd le truc qui est de dire on donne un jeton quand t'as fait quelque chose de cool. Donc là, on donne un jeton parce que c'est nécessaire.
De toute façon, on avait dit qu'on parlait plus de sens parce que ce jeu est nul.
Tout à fait, tout à fait. Donc arrêtons de parler de ce jeu de merde.
Et puis voilà, faut pas oublier aussi, je pense qu'il faut faire aussi de la lecture charitable avec les jeux, quoi. Des fois, tu te dis, bon, ok, le mécanisme est tel quel, mais faut pas oublier qu'on est, voilà, on est là pour respecter l'idée du jeu. Et quand elle est sous-jacente dans le bouquin... Faut essayer de se dire que la personne.
J'ai jamais réussi à structurer ce podcast. Moi, je pense qu'il faut, repartir. Donc, l'approbation, on a dit, c'est un phénomène qui est personnel. D'accord ? C'est des sourires autour de la table, c'est des clins d'œil. Et l'approbation, surtout, n'est pas déclenchée par un système de jeu. Ça, c'est très important. C'est déclenché par une conversation naturelle, par un plaisir naturel que le joueur ressent à un moment donné.
L'approbation est récompensée.
L'approbation est récompensée.
Oui, c'est ça, ce qu'on appelle les mécanismes d'approbation, c'est quand l'approbation est récompensée dans le jeu.
C'est ça, exactement. C'est
mais
ça,
je pense que quand un jeu te donne l'opportunité de faire des descriptions plus cool, ce genre de choses, il encourage des situations qui vont venir à une approbation. Après, non, c'est con, parce que n'importe quelle situation peut être approuvée ou non approuvée.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même un truc qui va en contradiction du système peut être approuvé par un joueur pour diverses raisons, parce que ça le fait marrer, parce que, etc. Et voilà.
Par contre, ce que tu viens de dire, c'est qu'à partir du moment où tu as des règles qui récompensent l'approbation, en tant que joueur, t'es motivé, c'est la carotte à aller dans ce sens-là.
Il a raison, Maxime. Alors, tout ce que je voudrais dire, c'est quand on rigole autour de la table, imaginons, on est en train de jouer à un jeu très très immersif, hein, Vampire la Mascarade par exemple, on essaye vraiment de sentir le vampire, on y joue de façon un peu sim, on est en train d'essayer de vraiment s'y sentir, et là à un moment donné, prout prout cacahuète, il y a quelqu'un qui fait une blague. Il y a quelqu'un qui fait une blague, qui n'a rien à voir avec le vampire. Tout le monde rigole. Eh bien, il y a une mécanique d'approbation. S'il le fait à travers son personnage, la blague, c'est-à-dire s'il s'approche d'un sire et qu'il fait semblant de faire dire à son personnage « je tire à mon doigt » et voilà, eh bien, que tout le monde rigole, eh bien, il y a un mécanisme il y a une approbation des joueurs qui se font autour de la table. Pour autant, est-ce que le système récompense cela ? Évidemment, non. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, ce qu'on appelle une mécanique d'approbation dans un jeu, c'est le moment où, effectivement, l'approbation va dans le sens... proposé par l'auteur du jeu ou proposé par l'expérience que propose le jeu, etc. Ce que voulait dire Maxime tout à l'heure. Maintenant, Adrien...
Est-ce qu'un Malkaf serait pas récompensé dans ce cas-là ?
C'est possible.
Ouais, je me souviens dans INS, quand tu étais de Presse du Monde de l'humour noir, quand tu faisais rire les gens, même en sortant complètement du truc, c'est récompensais possible. Et du coup...
C'est possible. Voilà. Il y a quelques exemples.
Mais dans ton exemple de Sim, ça marcherait pas.
Puis même, on voit bien que ça va dans le sens du personnage. Bah si, au contraire, ça marche. Oui, parce que la cohérence du personnage, c'est d'être bouffon. Donc voilà, à partir du moment où il l'est, voilà. Donc, et là, ça marche vraiment totalement, pour le coup. Après, bon, c'est.
Alors, d'accord, un système, il doit encourager
des choses naturelles,
telles que c'est prévu dans le jeu, telle que la partie qu'on a envie qu'elle soit jouée.
C'est ça.
Elle doit être bien dosée, l'approbation. Quoi.
Voilà, c'est
Mais quand elle est là, on est d'accord, ça encourage les joueurs à jouer.
Donc, si j'ose dire, il y a deux niveaux. Il y a l'approbation intuitive, l'approbation naturelle, et l'approbation qu'on va appeler. pas structurelle, mais l'approbation qui est récompensée, l'approbation mécanique, l'approbation qui rentre dans les mécaniques du jeu. Vous voyez, il y a comme une espèce de deux niveaux. Et moi, ce que j'aimerais bien, dont on parle dans ce garage à présent, c'est justement cette approbation structurelle, l'approbation qui est prise en compte par le jeu. J'aimerais bien qu'on donne des exemples de jeux dans lesquels vous avez ressenti que, en tant que joueur, le jeu récompensait l'approbation des autres. Alors moi, j'ai des exemples. Je voudrais qu'on change un petit peu du simulationnisme, parce que depuis le début, on parle de jetons qui récompensent des choses belles, des choses qui sont cohérentes, des choses machin. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de ludisme, et notamment au niveau de l'enquête. Et j'ai deux exemples qui me viennent en tête, à savoir Les 22 Triomphes d'Adrien, qui n'est pas sorti, je ne sais pas s'il sortira, mais dont on a fait un playtest, et Vademecum. Ils sont tous les deux des jeux qui fonctionnent avec un système de révélation.
Et tu parles de deux jeux qui ne sont pas sortis, ça va être compliqué quand même.
On va expliquer. En gros, les joueurs sont en train de faire une enquête. Dès qu'un joueur fait une hypothèse autour de la table qui correspond à une révélation future...
Sphinx. Alors là, tu parles de Sphinx surtout.
Ouais, Sphinx.
Alors oui, et Sphinx, j'ai oublié de citer Sphinx. Putain, du coup, à vouloir citer les 22 triomphes, j'ai oublié de citer l'inspiration principale qui est évidemment Sphinx. Dès que les joueurs font une hypothèse autour de la table qui correspond à une situation future, c'est-à-dire une hypothèse qui est bonne, le MJ les récompense en leur donnant l'une des révélations. Ma question, c'est est-ce que pour vous, ceci est une mécanique d'approbation du meneur?
Complètement. Oui, complètement.
C'est pas carrément une mécanique de résolution?
Une mécanique de récompense.
Oui, mais c'est surtout une mécanique de récompense, parce qu'en fait, en tant que personnage, tu peux jouer l'enquête telle qu'elle est prévue. Enfin, en gros, aller sur place, trouver un indice, et puis à un moment donné, le MJ te donne la réponse. C'est l'enquête traditionnelle. Sauf que là, la règle, c'est à partir du moment où ton personnage émet l'hypothèse, même s'il n'a pas de très fortes preuves, le MJ te la révèle en te disant « c'est ça ». Et c'est un moyen, en gros, c'est une récompense qui fait que tu pousses les joueurs à émettre des hypothèses dans tous les sens.
C'est ça, et ça marche ?
Ça marche à fond.
Ouais, du coup, par contre, le but, c'est pas de faire une enquête rigoureuse, parce que du coup, ça encourage les joueurs à faire uniquement...
Parce qu'en fait, il y a un moment donné où tu arrives à bout de tes hypothèses possibles avec les éléments que t'as. Voilà. Tu vois, je veux dire, quand tu sais que A a voulu tuer B et que B, en fait, il a trompé sa femme... Ouais. Bon bah tu peux faire des hypothèses, mais à un moment il te manque le fait qu'il y a monsieur D qui en fait c'est le patron de B, tu vois. Et tant que t'as pas cette info, bah tu peux pas faire des hypothèses au-dessus. Enfin, il y a un moment où t'es bloqué. Donc en gros, ces jeux-là te poussent à faire des hypothèses tant que tu peux, mais à un moment où dès que tu te sens bloqué, ben t'avances l'histoire.
Et puis tu fais des boucles. Il faut vachement bien doser la révélation, parce que si tu dis ah peut-être que machin avait une liaison avec truc, et là tu fais révélation, oui en effet il avait une liaison, là du coup ça va être chiant.
Mais en fait.
Mais du coup, en tant que garage, il faut faire attention à bien.
Il faut faire très attention.
Faire très attention.
Et ça, surtout, c'est une mécanique compliquée.
Une mécanique qui est très compliquée. Et surtout, il faut savoir à quel moment la donner. Parce que si tu la donnes au moment où le joueur fait l'hypothèse, du coup, tu dis aux autres joueurs que son hypothèse à ce moment précis était la bonne. Donc, si tu la donnes après. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il y a toute une histoire comme ça. Enfin, c'est
là,
très complexe.
Ça, c'est la grosse nuance entre Vademecum et Sphinx. Vademecum a une vocation un petit peu ludiste. Alors, après, ça va peut-être changer.
Ça va changer.
Mais et Sphinx, c'était pas trop le cas. Donc, en gros, dans Sphinx, tu récompenses immédiatement parce qu'il n'y a pas d'intérêt au secret. Tandis qu'effectivement, dans Vademecum, la partie qu'on avait fait, c'est intéressant de le recevoir après pour que les gens autour de la table ne sachent pas vraiment qu'est-ce qui avait été dit qui était récompensé. Et donc, avoir une sorte de rétention-fascination aussi entre joueurs.
Natacha ?
Je suis en train de me demander aussi si justement il ne faudrait pas donner les révélations au moment où ça stagne. Ou alors des mini-révolutions.
C'est ce qu'on fait en général.
Parce que j'ai trop d'exemples en tête de parties d'enquêtes ou de trucs dans ce genre-là où à un moment donné, on se retrouve à tourner en rond. On a fouillé un endroit où on a posé un... Voilà. Et les joueurs comme les personnages se posent et on ne sait plus quoi faire. Et on se dit, et maintenant, on fait quoi ? Et ça stagne, ça avance pas, et moi, ça m'énerve.
Adrien ?
En fait, ça, c'est dans la méthode de préparation du scénario, du bac à sable, du machin, que ça s'anticipe. Le jeu peut proposer des solutions. Et en général, ce qu'il faut faire, c'est... Enfin, moi, comment je conçois mes scénarios la plupart du temps, c'est un setup, une situation initiale, et puis ensuite des événements qui auront lieu. À un moment donné ou un autre, ça peut avoir lieu, enfin... La plupart du temps, ça aura lieu. Et en fait, c'est un mécanisme pour le MJ pour débloquer une situation. Les joueurs n'arrivent pas à tel stade à trouver qui est le tueur. Ben, écoute, il y a un meurtre de plus. Et puis, c'est parti. Ça relance des pistes. Ça fait avancer l'histoire.
Alors, ici, on a dans le cas des 22 Triomphes et de Vademecum, on a un mécanique de récompense qui est aussi une mécanique d'approbation. Pourquoi ? Parce que quand le joueur, pardon, quand le meneur, parce qu'en l'occurrence c'est le meneur qui la donne, mais c'est valable aussi dans Sphinx, hein, c'est aussi le meneur de jeu qui la donne. Quand le meneur de jeu la donne, en fait, il implique, il dit « j'approuve ton hypothèse », puisque moi, en tant que créateur ou auteur ou meneur de jeu, j'ai fait la même et je te récompense pour cela, d'une part. D'autre part, il encourage les autres joueurs autour de la table à faire la même chose. Donc la récompense et l'approbation sont ici une seule et même chose. Maintenant, je voudrais citer des exemples dans lesquels la récompense de jeu ludiste, toujours, parce que pour moi, c'est ludiste, hein, ça, la récompense, si tu as trouvé la bonne hypothèse...
Oui, complètement, complètement.
Enfin, ça va avec une... En tout cas, je pense que ça irait dans un jeu...
Ça encourage une démarche ludiste, je pense, à dominante ludiste.
Une récompense qui n'est pas de l'approbation, par exemple, c'est le gars, le minimaxeur, qui choisit de mettre une super armure et tout, le meneur de jeu, de par le jeu qu'il a, de par la base qui est entre ses mains, doit le récompenser. Enfin, je veux dire, et lui, pour autant, il est en train de se dire, si ça se trouve, bon, c'est un peu abusé, quoi. Là, il est en train de dormir avec son armure dans le contenu fictionnel malléable. Je suis pas sûr que ce soit très très classe et que ce soit très cohérent. Tu vois, enfin, là, il y a une récompense qui peut. Si, par exemple, le meneur de jeu a dans sa vision des choses envie de faire une partie. On va dire plus dans l'ambiance et qui tombe sur un joueur qu'il doit récompenser pour son minimaxage, vous voyez ce que je veux dire ? Là, du coup, une récompense peut ne pas aller avec une approbation. Il n'y a que lorsque les jeux sont bien faits que les récompenses et l'approbation sont corrélées. Et
ça, c'est... Je comprends pas du tout ton exemple, en fait. Ah. En gros, ce que j'ai l'impression que tu dis, c'est que si un jeu permet plusieurs comportements...
Non. Si un jeu permet à un joueur... d'être récompensé pour une action auquel les autres ne donnent pas l'approbation, alors le jeu est dysfonctionnel. Je répète.
Mais en gros, c'est ce que je disais, c'est qu'en gros, si un jeu te permet de jouer à plusieurs choses à la fois, type bah, vampire, le mec qui joue un bourrin, le mec qui joue un enquêteur, le mec qui joue un séducteur, c'est ça ?
C'est ça. C'est une autre manière de le formuler. Mais c'est très important. C'est très important de comprendre que c'est très important de comprendre que dans le débat sur l'approbation et la récompense, si récompense et approbation sont toujours corrélées dans un jeu, on est quasiment sûr que le jeu va bien se passer, enfin, ou en tout cas que le jeu a réuni toutes les conditions pour que la partie
se passe bien. Tu parles bien d'approbation générale.
Non, de joueurs.
Dans ce cas-là où tu as deux persos bourrins, deux persos séducteurs, il y a un perso bourrin qui pourrait récompenser l'autre perso bourrin en disant « Ah ouais, c'est cool ce que t'as fait et tout, tu l'as bien foutu sur la gueule », et les autres se font chier pendant ce temps-là.
Mmh. Ah, en fait, j'ai l'impression que si la proposition du jeu est exclusivement ludiste, finalement, ça reste tout à fait fonctionnel. C'est
oui,
juste
mais là, on parle
parce
pas de
que
ça,
les jeux ne sont pas 100% ludistes que le minimaxage pose problème, non ? Mmh.
On pourrait imaginer un jeu ludiste où il y en a qui préfèrent justement le conflit stylé avec la prise de risque, d'autres qui préfèrent minimaxer, comme on a dit, avec une grosse armure et s'assurer qu'ils n'ont aucun risque. Et au contraire, c'est ça qu'ils trouvent ça cool. Jeu serait ludiste et en même temps...
Non, mais c'est trop compliqué.
Ouais, à mon avis, c'est trop compliqué parce qu'en plus, moi, j'ai l'impression que tu parles d'un jeu, une espèce de jeu idéal où
je voulais distinguer la récompense de l'approbation. En fait, j'aimerais bien trouver.
Le problème, c'est que même dans Prosopopée, il peut y avoir des choses dites qui vont plaire à un seul joueur que les autres vont trouver complètement quelconque.
Ouais,
et pourtant, ça mérite récompense. Ouais. Hein.
Mais en fait, ce qui m'ennuie, c'est que je trouve que dans ce podcast, on confond trop souvent la récompense avec l'approbation. C'est ça que. Et donc j'aimerais bien trouver un...
Mais j'ai justement l'impression qu'avec la proposition ludiste, l'approbation, on s'en tape en fait, que c'est juste la récompense qui est importante. Enfin, c'est aussi pour ça, je l'avais vraiment envisagé en termes de sim en fait.
Il gagne un point quoi.
Dans un jeu ludiste, l'approbation elle passe différemment. Dans un jeu ludiste, l'approbation c'est le moment où les autres commencent à se méfier de ce que tu fais et ils vont faire gaffe à où est-ce que tu te places sur le plateau. Ah oui, il a préparé tel sort. Donc, enfin, ça, le fait que les joueurs commencent à faire attention à ce que tu fais, c'est une récompense ludiste.
Ouais.
Enfin, c'est le fait que les joueurs te prennent au sérieux. C'est une approbation ludiste.
Et le fait qu'ils soient, par exemple, emballés par.
L'approbation, c'est pas toujours clap, clap, clap. Ouh.
D'accord. Ouais, ok. Bon, passons la parole au mini Maxime.
Je me. Tu es sûr que tu veux vérifier ça?
En tout cas, c'est la réputation que t'as, hein.
On va aller faire un tour dehors.
Là, ça devient ludiste, ce podcast. Qui est-ce qui a la plus grosse? Maxime.
Merci.
De rien.
Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, est-ce que du coup, alors je dis peut-être du caca, mais est-ce que l'approbation, c'est pas le phénomène sous-jacent qui se passe en permanence dès que quelqu'un fait une proposition?
Mais si.
Et la récompense, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a un système qui l'encourage.
Mais si. C'était clair depuis le début, en fait.
Bah non, parce que ouais,
tu venais de redemander
est-ce qu'on doit essayer de le séparer?
Non, mais c'est bien. Non, parce que moi, pour moi, c'était pas clair jusqu'à maintenant. Que la récompense, que ce que vous appelez la récompense, c'est la mécanique qui justement, c'est ce que j'appelais l'approbation structurelle tout à l'heure. Vous l'appelez la récompense, finalement, depuis tout à l'heure. Eh ben très bien, ok, ben vous êtes plus clair que moi. Bravo. Voilà,
pourtant,
très bien.
Pas très bronzé.
Bon bah du coup c'était un bon podcast, on a expliqué à Romaric la vie. Et...
non mais moi je suis très content d'avoir compris, c'est ça le truc. Donc voilà. Est-ce que vous avez des exemples du coup
Vivien.
D'autres exemples, Vivien.
qui a joué à plus de jeux que nous.
Vivien est un exemple. Ouais,
ce running gag quoi. Comment ça se passe dans, j'allais dire encore dans Forbidden Siren,
Perdu sous la pluie. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais j'ai le sentiment que ce soit dans Perdu sous la pluie ou dans le spin-off sur lequel je suis en train de travailler, donc Libreté, que je fais travailler des mécanismes de sanctions, en fait.
Ah, intéressant ça.
Parce que dans Perdu sous la pluie, c'est d'autant plus évident parce que en fait, finalement, les joueurs sont encouragés à prendre de la vie, à prendre des attaches aux autres.
D'accord.
Et dans Libreté, il y a un peu la même idée. C'est-à-dire que là, on a de la bile noire et on la donne à l'autre, mais c'est en l'engueulant. Quoi. Il faut que le personnage fasse du mal en quelque sorte à l'autre. Quoi.
Alors, ce qui est compliqué, c'est que pour moi, Perdu sous la pluie, c'est un jeu ludiste. Enfin, moi, quand j'ai joué à Perdu sous la pluie, j'avais envie d'être le dernier vivant.
Ouais, mais c'est un faux jeu ludiste.
Ouais, mais bon, donc du coup, je sais pas s'il faudrait pas
c'est
le voir.
C'est un mauvais jeu ludiste si on le prend vraiment trop.
C'est vrai.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Peux nous rappeler à quel moment on prend un jeton à l'autre joueur?
Voilà.
Alors, après, est-ce que c'est de l'approbation? Voilà, c'est la question.
C'est pas de l'approbation.
Oui, c'est pas de l'approbation,
c'est...
je pense.
Mais
il y a une forme de sanction, malgré tout. C'est pas l'approbation, de toute façon, parce que j'étais en train de dire que c'était de la sanction. Enfin, en tout cas, de la désapprobation.
C'est pas de la désapprobation non plus. Ouais, voilà.
Mais ça peut être pris comme une forme de sanction. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de retirer un jeton, on peut en retirer un, enfin une attache, on peut retirer une attache, après en décrivant dans la fiction quelque chose qui va mal, ou en mettant en scène son propre personnage qui va faire du mal à l'autre, mais ça peut être considéré, enfin ça repose quand même sur une forme quelque part de sanction, parce qu'on choisit à qui on va, si on retire ou non des points, et on choisit aussi qui sera le suivant à morfler. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a une forme quand même derrière, il n'y a pas que de la mécanique, il y a aussi une forme de sanction.
C'est quand c'est ton tour, tu peux te faire en fait défoncer par tous les autres. Quand c'est ton tour, tous les autres peuvent choisir de te défoncer ou de t'aider à certains moments.
Oui, il y a aussi la mécanique d'aide, effectivement, qui peut être une mécanique d'approbation.
Ou une mécanique ludiste, enfin, création de dépendance de l'un de l'autre.
Voilà.
Mais
alors voilà, je voulais parler de ça.
Et le seul truc, je termine juste un truc. La seule mécanique de vraie sanction qu'il y a dans Perdu sous la pluie, c'est au tout début. Quand on écrit tout sur un papier, quel est l'enfant qui nous plaît le moins? Pour savoir qui va être le premier à morfler. Et là, c'est de la vraie sanction parce qu'on voit qui a créé des persos et tu fais putain, ton perso, c'est de la merde, qui crève.
Mais c'est pareil pendant tout le jeu quand on donne à un autre le tour parce qu'on sait qu'il va en prendre plein la gueule.
C'est pas vraiment de la sanction en fait. Hein. Enfin, la sanction, c'est quand il y a un comportement, il n'y a pas encore eu de comportement. Moi, Perdu sous la pluie, c'est un jeu de séduction. En gros, quand tu joues, tout l'objectif, c'est d'arriver à draguer, à séduire les autres joueurs. Je veux dire, tu m'aimes bien et tout, mon perso il est cool, il t'aime bien.
Tu vas quand même pas me faire ça. Ouais.
Tu vas quand même pas me faire ça. Enfin, pour moi, c'est ça l'enjeu ludiste de Perdu sous la pluie, c'est ça. Hein, c'est
jamais faire en sorte que ton personnage fasse du mal aux autres, mais faire en sorte que ce soit l'environnement ou les sirènes.
Il faut qu'il fasse un petit peu de mal de temps en temps, tu vois, mais pas beaucoup, et puis tu dis que c'est pas vraiment ta faute. Enfin, voilà, c'est autour de ça que tu joues. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de mécanisme d'approbation. Enfin. C'est
dur, mais c'est quand même pas loin en tout cas. Si c'en est pas,
en fait, ça
quand même
jouer
lié,
sur la
quoi.
Séduction, c'est sans doute proche de ça. Proche, ouais.
Alors justement, ça me permet de faire. C'est une excellente transition vers le dernier point que j'avais envie d'aborder, mais j'espère que vous avez d'autres choses et d'autres idées pour ce garage, parce qu'on n'a pas donné beaucoup d'exemples en fait. Je vous rappelle que le but du garage, c'est quand même de donner des exemples de mécaniques. C'est ce qu'on appelle le soutien, des mécaniques de soutien. qui sont des mécaniques d'approbation dont on n'a pas du tout parlé dans
super
ce podcast,
important, ça.
Et qui sont généralement des mécaniques d'approbation qu'on trouve plutôt dans les jeux à tendance ou qui ont tendance à encourager le narrativisme, à savoir « je te donne mon dé ». Alors j'ai un exemple typique, Zombie Cinéma par exemple.
Exactement l'exemple auquel je pense. C'est...
Donc, par exemple, on va entreprendre une action et un joueur autour de la table, s'il trouve que l'action qu'on entreprend est moralement digne, il va nous, ou en tout cas s'il la trouve fun, s'il la trouve cool d'un point de vue du point de vue de l'histoire, donc du point de vue de l'histoire, d'où le narrativisme oui. d'ailleurs, eh bien il va donner son dé pour aider l'action de l'autre. Mais donnant son dé, il va aussi prendre les conséquences si l'action...
Alors c'est pas tout à fait ça, si je me souviens. Excuse-moi, il y a deux types d'interventions possibles. Soit ton personnage est dans la même scène, et là ton personnage peut aider c'est l'autre, ça. Et là prend le risque... Alors, soit à la fois prend le risque de s'en prendre plein la gueule avec toi, ou prend le risque d'avancer avec toi,
avec
donc de
toi.
Gagner. Ouais. S'il n'est pas dans la scène, par contre, il peut mettre son dé à côté du tien et dire, en gros, je te soutiens, il n'y a pas de risque, pas de gain pour moi, mais c'est juste ta scène, elle est cool, j'ai envie que tu gagnes.
Voilà, donc vous voyez, le ta scène, elle est cool, j'ai envie que tu gagnes. Vous voyez comme ce dé de soutien est une mécanique d'approbation, enfin est une manière de montrer mécaniquement son approbation, de récompenser un joueur parce que ses idées nous plaisent. Et ça, on le retrouve également dans... J'avais un autre exemple, mais je l'ai perdu.
Dans tous les jeux qui ont une mécanique d'aide bien formulée.
Dans Burning Wheel qu'on avait
Burning
testé
Wheel,
avec
on a vu
toi.
Qu'il y avait, on y pouvait donner un dé à l'autre pour l'aider. Ouais. Apocalypse World, il y a une action d'aide...
Oui. Alors, qu'est-ce que t'as dit ? Tu dis ?
Il dit Influenza.
Dans Influenza, alors moi je suis pas assez compétent pour Influenza.
Dans l'agence, il y a une mécanique d'aide, mais je sais pas si elle rentre dans ce cadre-là, parce qu'en fait, c'est tu perds ton tour pour aider, donc.
D'accord.
Ouais, et puis dans l'agence, on travaille tellement sur la même affaire que c'est pas que j'approuve et que j'aime ton action, c'est juste que j'ai envie qu'on gagne et pas qu'on s'en prenne.
Enfin, tout ça pour dire que ce mécanique, le soutien, la manière, puis même le mot soutien, implique. Que moralement, on juge que l'action en cours
est digne d'être soutenue. Dans Sur les frontières, que l'on testera prochainement, il y a des mécanismes comme ça d'aide qui sont hyper vicelardes. Enfin, on verra ça à ce moment-là.
Mais en gros, voilà, je voulais parler aussi de ces mécaniques-là. Est-ce que, quel avantage et désavantages de ces mécaniques de soutien. Vivien, toi qui as expérimenté ce genre de jeu, est-ce que tu veux nous en parler un peu ou pas ?
Des avantages. Assez expérimenté pour savoir. Avantages, j'ai
moi, je peux en parler
bien
un peu,
vu ça, parce que alors, à Zombie Cinéma, c'était vraiment, vraiment excellent à ce niveau-là. On voyait bien vraiment les groupes de joueurs. À la fin, en plus, Zombie Cinéma, il y a de moins en moins de joueurs parce qu'ils se font manger par le zombie. Et donc, à la fin, les joueurs qui restent, ils continuent à suivre l'intrigue et à s'investir justement parce qu'ils peuvent soutenir. Même en étant mort, en fait, parce que c'est juste qu'ils posent leurs dés. Et j'ai bien vu tous les joueurs commencer à me coller des dés de malus pour essayer de m'empêcher de réussir. Et c'était assez drôle, quoi, parce que jouer un connard qui méritait de crever...
C'est pas très bien. Alors justement, c'est de ça dont je voulais parler. C'est que pour moi, l'avantage du soutien, en fait, le principal... Alors je sais pas si on peut parler d'avantage. On devrait plutôt parler de propriété, parce que dans certains jeux, ce sera un défaut, mais dans d'autres, ce sera un avantage. Ah putain, mon micro déconne encore. C'est que ça va dresser les joueurs les uns contre les autres et ça va généralement créer des mécaniques parce qu'on soutient toujours un joueur contre un autre dans ces jeux-là. Donc du coup, ça va faire des mécaniques de groupe, des mécaniques de « nous, on est plutôt ensemble sur cette situation, vous êtes plutôt contre nous sur cette situation ». Donc ça va créer en fait des mécaniques d'opposition entre les personnages, des oppositions qui devront donc, puisqu'elles sont des oppositions, être justifiées, justifications qui seront forcément, d'un point de vue de la morale, et donc ça encourage encore une fois à se justifier sur son action, à aller chercher dans ses valeurs, dans ses fondements, dans sa moralité, des raisons de soutenir et des raisons d'entreprendre cette action et de soutenir contre les autres. Et voyez où ça va ? On va vers un débat de valeurs et d'idées et de symboles entre les différents joueurs autour de la table. Ça, c'est des mécaniques d'approbation qui sont assez intéressantes, je trouve, notamment pour le narrativisme, mais pas pour des jeux qui encourageraient le narrativisme, mais pas uniquement. Hein, ça peut être utilisé aussi de façon ludiste, par exemple si tous les joueurs jouent les uns contre les autres. Et donc du coup, là, à ce moment-là, le soutien à quelqu'un peut être un soutien d'intérêt. On a eu le cas dans Burning Wheel, lorsqu'on a testé Burning Wheel, j'ai donné l'un de mes dés, j'ai soutenu un joueur parce que j'y avais un intérêt stratégique.
J'ai évoqué une des règles de 22 Triomphes qui risque de faire de rester jusqu'au bout. C'est qu'en fait, donc dans 22 Triomphes, les joueurs sont en compétition. les uns contre les autres. À la fin d'une campagne de 22 triomphes, il y a un seul vainqueur. Et donc, après, il y a des règles pour que ça tienne plus ou moins jusqu'au bout en tant que groupe, mais que ça clash à la fin. En tout cas, tout au long de la partie, il y a un score de confiance que chaque personnage a avec chaque autre personnage. Donc, par exemple, si mon personnage va aider celui de Romaric, notre confiance va augmenter de 1 mutuellement. Et dans le jeu, à un moment donné, on peut briser la confiance et on a un bonus qui est égal au score de confiance parce que plus on se fait confiance, plus on se poignarde bien dans le dos. Et donc là, l'intérêt de céder est double parce qu'il peut... en plus, quand on a un score de confiance, qu'on cède mutuellement, on a le bonus de confiance parce qu'on cède mieux quand on a confiance dans celui qui nous aide. Et donc là, le mécanisme d'aide est à double tranchant. C'est mieux pouvoir céder, mieux pouvoir se trahir.
Un dernier truc, est-ce que dans Blitzstage il y a des mécaniques? Alors je crois, parce que moi j'ai pas joué à Blitzstage personnellement.
Oui.
Et j'aimerais bien savoir parce que je crois qu'elles sont particulières aussi.
Alors dans Blitzstage, le mécanisme d'aide entre guillemets, s'il y en a un, il intervient pendant les scènes de relations. Donc en gros, Blitzstage, on alterne des scènes de combat où on va endommager nos relations avec les autres adolescents du groupe.
Ouais.
Et ensuite, des scènes de relations où, au contraire, on va venir les réparer, les renforcer, etc. Et donc, dans les scènes de relations, il y a des situations où on va... Donc, chaque pilote, donc chaque personnage qui est au centre de l'histoire, on va dire, a le droit à une scène qu'il choisit. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai envie de passer un moment avec telle personne. Le MJ peut en faire tant qu'il veut. Mais du coup, les joueurs ayant le choix de leur scène, en général, ils ont intérêt à essayer soit de défendre leur bout de gras, c'est-à-dire par exemple, il y a tel personnage avec qui ils ont une très bonne relation, qui est super fragile, donc ils vont essayer de la réparer. Et dans les situations où ils n'en ont pas, va se poser la question de est-ce que je ne vais pas essayer d'aller aider une autre relation.
D'accord. Alors on arrive...
C'est pas possible clairement dans les règles, mais...
Et puis surtout, t'as forcément détruit des relations pendant le combat, donc t'as forcément quelque chose à faire.
Non, pas systématiquement. Puis en fait, faut aussi voir que dans les combats, il n'y a pas toujours tous les pilotes qui sont impliqués.
Ah oui, c'est vrai.
Donc,
Alors, là où je veux en venir, c'est que je pense aussi qu'il existe des mécanismes d'approbation, des récompenses, qui peuvent se matérialiser. Et là, ça devient très très flou et ça devient très complexe. Et là, je pense qu'on ne va pas pouvoir... Enfin, on ferait des podcasts pour en parler, via la fiction. C'est-à-dire qu'en fait, via le contenu fictionnel malléable, des joueurs vont aussi pouvoir donner leur approbation. Je donne un exemple tout bête. Par exemple, à un moment donné, Vivien, dans les errants d'Ukyo, en tant que joueur, il fait une action avec son personnage qui, moi, me plaît. C'est-à-dire, avec ton personnage, tu fais une action et moi, en tant que joueur, cette action, elle me plaît énormément. Et bien, du coup, je vais prendre le contrôle de mon personnage en tant que joueur. Et par exemple, je vais embrasser le personnage de Vivien. Mon personnage va embrasser le personnage de Vivien. Ça, quelque part, c'est à l'intérieur du contenu fictionnel malléable. C'est une récompense. Je veux dire, le moment où mon personnage décide d'embrasser le samouraï de Vivien pour le récompenser de ce qu'il a fait, le joueur et le personnage, à ce moment-là, vous voyez, c'est le joueur récompense et donne son approbation à l'action d'un autre joueur en faisant dans la fiction quelque chose qui récompense son personnage. Est-ce que vous voyez ? Enfin, un bisou de Romaric, je ne sais pas si c'est une très belle récompense, mais...
C'est le perso de la gastro, ça va.
Voilà, c'est ça. Mais est-ce que vous comprenez où je veux en venir ?
Au final, moi, c'est quelque chose que je trouve presque plus intéressant que du dit de soutien ou des choses comme ça. Et
parce que tu ne jures que par les jeux.
Oui, peut-être. Mais au-delà de ça, peut-être que ce qui est important là aussi, c'est que les autres mécanismes permettent de faire l'approbation quand, soit de façon RP, soit parce que ton personnage est pas là, tu peux pas aller embrasser le personnage de Vivien. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui,
c'est,
tout à fait.
Voilà, ça permet de pallier à l'impossibilité de le faire dans le contenu fictionnel.
Oui, tu pourrais envisager que Romaric, à ce moment-là, prenne la parole en disant mon personnage est... mon personnage, le moment où il apprendra ce qu'a fait Vivien, sera super ému, etc.
Ouais.
Et ça, en fait, pour moi, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler parce qu'en fait, tous les jeux. En fait, c'est un élément sur lequel, en tant que créateur de jeu, on n'a aucun contrôle.
Voilà, c'est ça.
On ne peut rien faire, on ne peut rien dire.
C'est ça.
Les joueurs le feront, et le feront dans tous les jeux, peut-être. Mais je pense pas qu'on ait grand chose à en dire à part le fait que ça existe, que c'est bien et que c'est ce qui plaît aussi, je pense, à beaucoup de.
Là, si j'ose dire, on se place plutôt au niveau de la partie que des auteurs de jeux. Donc, est-ce que ça a sa place dans un garage ? Maxime, puis Vivien.
J'ai une autre idée de mécanique. Alors, je sais pas si c'est mécanisable.
Ah, peut-être Vivien, du coup, parce que tu voulais répondre.
Moi, j'ai une autre idée de mécanique, en fait, à laquelle j'ai pensé.
Ah,
ouais, parce que
moi,
Vivien voulait répondre à Adrien.
Je voulais juste développer sur l'idée de la fiction.
Et
parce
on
que
passe
là,
à toi.
Là, finalement, ou contenu fictionnel malléable. Là, t'as parlé uniquement du personnage, mais moi, je sais pas si vous en avez peut-être parlé aussi. Je pense là, tous les jeux de narration plus libre, enfin plus partagé, on va dire, avec, je sais plus comment ça a été dit par Frédéric Synthèse. ou en tout cas, le partage de narration est plus relâché.
Ouais.
Le fait qu'un autre joueur reprenne des éléments qui ont été amenés dans la fiction par un autre est déjà un mécanisme en soi d'approbation très fort, et c'est ça, ça marche à plein justement. Je vais pas encore prêcher pour ma paroisse dans Perdu sous la pluie, où généralement quand un joueur est dans l'adversité et amène un élément qu'il trouve cool et que les autres trouvent pas cool, il meurt tout seul, et à l'inverse.
C'est la séduction dont parlait Adrien tout à l'heure. Comment est-ce qu'on séduit les autres dans Perdu sous la pluie? C'est en décrivant des choses.
Non, pas tout à fait. Enfin, il y a deux séductions, en fait. Il y a la séduction quand on est dans son personnage, c'est-à-dire est-ce que je vais rendre mon personnage aimable, on va dire, est-ce que les gens vont avoir envie de pas trop lui faire mal. Et il y a la séduction en tant que MJ, on va dire, adversaire, où tu décris des choses absolument...
Dans tous les cas, tu décris des choses.
Non, mais voilà.
Dans un cas pour ton personnage, dans l'autre pour le mode.
Ouais, mais il y a une double mécanique qui va pas forcément, tu vois, qui va pas dans le même sens forcément systématiquement. Voilà, donc c'est tout le principe de décrire une créature, par exemple, horrible et qui sera reprise par d'autres parce qu'ils l'auront trouvé cool et qu'ils ont envie d'en rajouter, quoi.
Manu, sur ce point, puis Maxime.
Ouais, quand Adrien dit qu'on a, nous, créateurs, aucune prise sur cette façon de récompenser, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la couleur du jeu, telle qu'on la présente, doit pouvoir jouer là-dessus, que la façon dont on présente le groupe de PJ doit
c'est
pouvoir jouer là-dessus.
C'est valable pour des jeux Sims, que tu es en train de dire encore une fois.
Okay,
bah oui.
Je me tais, je m'en
vais. Le jeu de rôle n'est pas uniquement le simulationnisme. Enfin, ne pas uniquement les jeux de rôle qui encouragent
sinon
la
simulation. Sinon, tu mets une mécanique dans ton jeu. Si un joueur dit un truc très cool, le personnage de Romaric lui fait un bisou.
Ouais, voilà, c'est ça.
Alors, je sais pas si ça sera très passionnant.
Moi, j'imagine la règle suivante. Si suite aux actions d'un personnage, un autre personnage le récompense dans la fiction, alors récompenser le joueur du jeu. Ça commence à devenir abracadabrantesque, parce qu'après tu peux te mettre à récompenser les joueurs qui récompensent des récompenses dans la fiction qui récompensent des joueurs qui... Enfin voilà, là on peut faire des trucs sans fin.
Alors, Maxime,
je sais pas si c'est de la récompense ou de l'approbation ce à quoi je pensais, mais je pense, quand vous parliez de modifier la fiction en fonction de d'approbation, ça peut arriver aussi quand t'as des joueurs qui font des hypothèses cool, ou toi t'as prévu genre une enquête et compagnie, t'as des joueurs qui font des hypothèses, et du coup tiens, par approbation tu peux t'amuser à modifier les événements tels que t'avais prévu qu'ils se passent, pour que finalement... bim, ça correspond à ce que vous avez dit. Et là, t'as généralement un joueur qui fait Oh, j'avais trouvé. Et je sais pas si c'est de la récompense ou de l'approbation. Et est-ce qu'on peut mettre des règles comme ça dans un bouquin en disant si vos joueurs ont des hypothèses qui au final
sont meilleures que les vôtres,
en fait, gardez-les quoi.
Cette règle existe dans un jeu. Il me semble l'avoir lu.
Alors, je dis pas des bêtises, mais dans Cthulhu Gumshoe, il y a pas un truc comme ça. Enfin, le système Gumshoe, c'est pas. En fait, ce que je sais,
c'est que
système
Gumshoe, non, mais alors il y a peut-être.
Ce que je sais, c'est que dans la méthode d'enquête, enfin dans les scénars d'enquête, ce qui est recommandé, enfin ce qui est pour moi le seul truc que je dirais aux gens de faire, c'est que ne prévoyez pas où sont les indices, prévoyez quel type d'indice existe, et éventuellement prévoyez quelque part où ça vous semble logique vous, mais après si les personnages des joueurs vont le chercher ailleurs et que ça semble cohérent qu'ils trouvent l'indice, qu'ils le trouvent. Et donc ce que tu décris, ça correspond à ça en fait. Ça correspond à ne laissez pas les joueurs devoir explorer votre cerveau à vous, mais vous récompensez les joueurs qui font des choses cohérentes avec ce que vous attendez.
Ouais, faut qu'on ait un cerveau plastique, quoi, pas un truc rigide dans lequel il doit se diriger, c'est on doit modifier nous-mêmes.
On n'est pas dans un jeu vidéo, en fait.
Voilà, ouais, tout à fait.
Ce que je trouve très intéressant, on arrive un petit peu au terme de cette discussion, on a déjà fait le tour de quelques mécanismes qu'on a assez bien développés. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, le moteur du jeu de rôle, c'est l'approbation. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on recherche, dans le fond, quand on fait un jeu de rôle avec les gens, c'est qu'ils approuvent les choses que l'on est venu raconter ce soir.
C'est une activité sociale.
Et du coup, ceux qui ont peur de participer, de faire des propositions, c'est justement ceux qui ont peur de ne pas avoir cette approbation, voire d'avoir une sanction.
Exactement, c'est ce dont on parlait avec, tu sais, les trois limites du théâtre d'improvisation, l'obscénité, etc. C'est la peur.
Et je pense que l'absence d'approbation peut faire aussi mal qu'une sanction.
La folie.
La folie, parce qu'obscénité, c'est déjà...
Excuse-moi. Maxime.
Je pense que l'absence d'approbation peut faire aussi peur qu'une sanction. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont avoir très peur de la sanction, mais ils vont aussi tout simplement avoir peur de faire un flop quand ils disent quelque chose.
L'absence d'approbation, c'est une sanction, en fait. Hein. Enfin,
oui, si on veut...
Globalement, ouais.
Mais oui, c'est ce qu'on disait en creux, quand on ne donne pas de points d'immersion.
Ouais, quand on ne donne pas de points d'immersion, on se retrouve comme un con. Et là, on peut prendre ça très mal et se renfermer comme une huître. Et il faut faire attention. Voilà. Toute une question de contrat social, il faut faire attention aux joueurs.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc que cette thématique et cette problématique est au cœur de l'activité jeu de rôle, et ça c'est important de le souligner, c'est-à-dire que surtout
des trois manières de jouer, enfin des trois archétypes de manière de jouer, c'est-à-dire
démarche créative,
en sim, ça va être parce que on colle au canon qu'on va être récompensé par des attitudes des autres personnages, en ludiste c'est parce que les autres joueurs vont commencer à faire gaffe à ce qu'on est en train de faire et à nous prendre au sérieux, et puis
à faire des trucs cool d'un point de vue tu sais mécanique, oui, de bien minimaxé, bien optimisé,
et puis en narratif pareil parce que
la direction que prend l'histoire, ouais, qu'on fait prendre à l'histoire,
les problématiques qu'on soulève.
Je me demandais aussi, je me place par rapport au sim particulièrement, mais en fait c'est peut-être le cas dans les autres, si l'approbation c'était pas un moyen aussi de freiner le hasard. Parce qu'on a fait une proposition créative cool,
Tu dis ça par rapport à... je vois pourquoi il dit ça.
C'est très sim.
Mais du coup, voilà.
Mais je vois pourquoi il dit ça, parce que dans les jeux de rôle... traditionnel, on va dire, jusqu'aux années globalement 90, les jeux de rôle, en gros jusqu'à Vampire, j'ai envie de dire, les jeux de rôle consistaient à, pour savoir comment l'histoire allait se dérouler, comment l'action allait se finir, à lancer des dés. Et du coup, on remettait un peu au hasard le déroulement de l'histoire. Non, t'es pas d'accord, Adrien ?
Si, c'est vrai, mais c'est vrai, je pense, surtout dans le sim.
D'accord. Je sais pas.
Dans le narrativisme aussi, je crois qu'en fonction de l'approbation, tu peux te retrouver avec des bonus sur la fiction et donc faire tourner le truc dans ton avantage. Quoi.
Oui, alors après, voilà, moi, de toute façon, je m'étais dit, c'est en commençant ma réflexion, je me suis dit, effectivement, c'est plutôt le cas pour le sim, mais j'étais pas sûr de moi.
Juste pour dire que les mécaniques d'approbation dont nous avons parlé là, et après, je te passe la parole à Emmanuel, ne sont jamais, jamais le propre d'une démarche créative ou d'une autre. Éventuellement, on peut dire, on les a plutôt trouvés dans ces jeux-là, et du coup, ils ont pris cette signification-là, comme les dés de soutien dont on parlait tout à l'heure avec Vivien, mais on ne peut jamais dire qu'une mécanique en elle-même encourage plutôt telle ou telle démarche créative. C'est impossible, parce que ce serait contre les synergies des règles entre elles, contre les dynamiques du groupe, ce jour-là, dans cette partie-là, à ce moment-là, ce serait contre tout ça. Donc, il faut être très très prudent quand on dit tout ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on aperçoit plutôt, de fait, statistiquement, dans tel type de jeu, tel type de mécanique qui récompense l'approbation, etc. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Je sais ce
selon
que tu
l'encyclopédie
dire.
Encarta, jeter un des 10 millions.
Emmanuel.
Par rapport à ce que dit Natacha, moi je suis assez d'accord, mais en fait l'idée c'est que le hasard risque de sanctionner quelque chose que tout le monde avait envie d'approuver.
C'est ça.
Et c'est aussi pour ça que sur certains jeux tradis, on finit par, sur une partie, lancer seulement un ou deux GD parce que le reste se déroule tellement bien comme ça qu'on n'a pas envie de prendre ce risque.
C'est ça.
Ouais, mais ça, le fait de... André. On avait envie que ça se passe comme ça, donc il faut que ça se passe comme ça, c'est sim.
Ouais, et du coup, on respecte plus les règles d'accord. du jeu quoi, dans l'histoire.
Hein. Ouais, c'est et puis, ça, quand et on, attention, on veut parce... pas se faire surprendre.
Et puis attention, parce que même dans le sim, c'est pas pour ça qu'on n'a pas envie d'avoir peu d'adversité.
Bien
tu
sûr,
vois
bien sûr, bien sûr.
Parce que là, ce que vous décrivez là, si à chaque fois qu'on est d'accord tous ensemble, ça avance dans un sens donné, autant écrire un roman
à
plusieurs.
C'est ça, là, on fait c'est pas ça. Un jeu de rôle, on écrit un roman merde, ensemble. Quoi, ouais.
Là, il y a un côté, il n'y a aucune limite à dépasser. Enfin, c'est assez étrange. Donc, parce que même dans le sens, Emmanuel, on ne fait aucun jet de dés, évidemment. Il n'y a aucun hasard, évidemment. Mais il y a quelque chose qui résiste. C'est l'histoire, c'est l'univers, c'est la rétention fascination, c'est les secrets de l'univers qui résistent. Donc tu vois, il y a toujours quelque chose qui résiste, sinon il n'y a pas de jeu, tu vois, quelque part. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez d'autres exemples de mécaniques d'approbation que vous voudriez voir un autre exemple où vous dites « Ah oui, si, il y a ça aussi dont on n'a pas parlé. » Non, c'est bon, on a fait le tour globalement, je crois.
A priori.
Eh bien, très bien. Eh bien, on conclut. Merci d'être venu à ce podcast. C'était un podcast très, très complexe, hein, très, très dense,
ouais,
avec aussi beaucoup
très
de...
Très intéressant.
Alors, je pense qu'on a été malheureusement, si on fait le podcast du podcast, là, je pense qu'on a été malheureusement très très flou. On a parlé beaucoup en raccourci, sim, lude. Ne vous fiez pas à ce podcast pour vous instruire sur la théorie du GNS, hein, parce qu'on a été très très rapide sur certains trucs. On a fait plein de raccourcis. d'un point de vue GNS, ce podcast n'est pas du tout rigoureux. Ce qu'il faut retenir de ce podcast surtout, c'est les différents exemples qu'on a cités de mécaniques qui récompensent l'approbation. C'était vraiment le but du podcast. Après, là, on a fait un petit peu notre popote entre nous du game, du lutte, du machin, mais en gros ne vous fiez pas à ce podcast pour en apprendre plus sur le GNS, fiez-vous aux articles de Ron Edwards et de Vincent Baker sur le sujet, ce sera beaucoup mieux parce que là on a fait plein de raccourcis et ce qu'on a dit est probablement très 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 faux à bien des endroits à ce sujet. Je voulais juste mettre ce bémol pour que les choses soient très claires.
C'est quelque chose que Romaric dit à chaque fois qu'il parle du GNS parce qu'à chaque fois il n'est pas spécialiste.
Il s'en est tellement pris plein la gueule en même temps que maintenant.
C'est pas tellement ça, mais c'est que nous on emploie le GNS d'une certaine façon qui n'est pas la manière dont ses auteurs l'ont employé au départ.
C'est-à-dire mais on se comprend utilisation... et vous nous comprenez, c'est pour ça que vous nous écoutez.
Voilà, c'est ça. Voilà, mais voilà, juste si vous voulez en savoir plus sur le GNS tel qu'il a été créé au départ, là vous en avez appris sur le GNS, de la manière dont le GNS est utilisé par la cellule peut-être, mais si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie encore une fois aux articles initiaux, à savoir Système Dosmateur et GNS et Théorie Rôliste, et article de Théorie Rôliste par Ron Edwards, et c'est traduit par le PTGPTB par un individu qui s'appelle Christophe Buckley et un individu qui s'appelle JMS, je sais pas du tout qui est ce JMS, mais voilà,
Jean-Marie,
je sais pas qui c'est.
Donc,
voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont venus donner des exemples à travers leur jeu aussi, pris le risque de parfois dévoiler des secrets des jeux futurs.
Oui.
Voilà, merci à vous. Allez, salut, portez-vous bien.
Salut,
et surtout, jouez bien.
Très bien.